Bonjour à tous et bienvenue sur Comics Start, une nouvelle émission sur Comics Office. Je suis ce soir avec Marty.
Hello tout le monde, salut Benny.
Et Jonath.
Salut à tous. Au mois prochain.
Voilà, exactement. On l'a jamais faite en plus cette vanne.
Jamais.
Donc pour une nouvelle émission, un nouveau concept, alors qu'est-ce que c'est Comic Start? C'est pas du tout une émission qui va vous conseiller de commencer par telle ou telle série pour vous lancer dans tel ou tel comics, etc. C'est tout simplement une émission où on va discuter de nos débuts, de nos premiers émois à travers les comics. Quelle première série on a lu quand on était tout petit, quels personnages on connaissait, pourquoi, comment, lesquels nous intéressaient, quels univers nous avaient attirés, enfin ce genre de choses quoi. Et à travers cette discussion, on va parler de plein de choses en réalité, vous allez voir, ça va être très bien. En tout cas, c'est un numéro d'essai, un numéro zéro, enfin un numéro d'essai Marvel, un numéro vraiment de... Enfin bref, vous m'avez compris.
Oui, un numéro d'enterrement, hein. c'est un numéro d'essai, voilà.
On verra si on sera décédé à la fin ou pas.
Voilà, c'est ça, un numéro d'enterrement. Il y aura peut-être qu'un numéro, mais justement, ça va être intéressant. On va voir si déjà, entre nous, ça fonctionne, ce concept, et puis à terme...
Et si ça fonctionne pas, on virera quelqu'un.
Voilà, et à terme, bon, ça peut tomber sur moi, je m'en fous. Bon, bref. En tout cas...
Personne ne te voudra, donc vaut mieux pas que ça tombe sur toi.
En tout cas, on sera peut-être amené à faire d'autres numéros avec, peut-être, d'autres personnes, d'autres participants. Bien, alors on va commencer par Jonath ou Marty, à la rigueur, on n'a pas établi d'ordre exactement. Qui veut commencer? Qui se sent chaud?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast avec Jonath, donc je lui laisse la main.
Oui, mais il a peut-être besoin de s'échauffer ou... Je sais pas.
Je suis prêt.
Alors Jonath, première grande question, quels sont tes premiers souvenirs liés aux comics?
Alors mon cher monsieur Onebunny,
ouais.
Figure-toi que mes premiers souvenirs, je pense... C'était quand j'étais à la bibliothèque municipale, hein, là où j'étais. Et dans le rayon, ouais. Le rayon jeunesse, hein, le rayon enfant, parmi les bandes dessinées hein, classiques, genre les Schtroumpfs, Spirou et Fantasio, Astérix, Tintin, enfin des trucs très très bien. Ces chers membres de la bibliothèque avaient eu la bonne idée de mettre des comics, là aussi pour jeunesse, comme eh bien celui par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire Batman en fer blanc, qui effectivement est destiné à un très jeune public. Donc, faut quand même expliquer que quand je dis rayon jeunesse, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine limite d'âge, et il y avait dans une autre partie, une autre salle, hein, littéralement de la bibliothèque, il y avait des BD plus pour adultes, où on retrouvait un peu les... Je sais pas, mais on s'imagine les Largo Winch, les choses dans ce genre-là, quoi. Voilà.
Et t'as une idée de l'âge que t'avais?
Si j'avais 6 ans.
T'avais plus de 6 ans, puisque tu savais lire.
Bah, 6-7 ans, oui, mais si tu veux, je voyais bien, enfin, je savais lire, quoi.
Ouais, enfin, c'est quand même hardcore, quoi. C'est vrai que... Enfin, hardcore. C'est quand même un peu plus adulte que le type
oui,
de BD qu'on
oui,
lit à cet âge.
Bon. Voilà. C'est sûr que c'est une vision de la religion un peu particulière, mais... Non, je suis tombé là-dessus et puis après j'ai feuilleté le truc et après évidemment comme beaucoup d'enfants de cette génération-là, hein, le début des années 90 a quand même été marqué par la Batmania en général, hein, avec le film de 89, puis Batman TAS, hein, le dessin animé qui doit arriver, je pense, vers 92 ou 93 sur Canal+.
Oui.
Dans des codes pas venus, peut-être un peu après, je sais pas, je crois que c'est 93.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ça.
On en reparlera.
Et donc du coup, voilà, j'ai continué par là, par les Batman TAS qui sortaient en comics.
Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ouais.
Et puis en parallèle, via des fois j'allais ça fait vraiment 36-15 ta vie, hein, mais des fois à l'hypermarché, donc c'était Géant, je crois, ils avaient le rayon journaux, et il y avait les recueils sémiques que je trouvais pas forcément dans les tabacs journaux classiques, qui est un peu plus petit, et là pour le coup je les trouvais, je pouvais lire aussi passage, et c'est là que j'ai tombé dans les X-Men, hein, littéralement, avec les versions intégrales en recueil sémique, et donc en particulier celui qui m'a vraiment marqué, ce sera pas une surprise pour ceux qui commencent à me connaître, Inferno, hein, tout simplement, qui était...
Ah oui, là c'était carrément le récit complet Marvel, je crois, c'était
voilà.
La RCM.
Il y avait, il y avait tout, alors bon, il ne devait pas y avoir les épisodes d'avant, hein, toute la... mais voilà, on avait quand même, je dirais, tout le crossover, en tout cas avec les X-Men, avec X-Factor, la bataille avec la Goblin Queen, avec surtout Sinister, hein, le fameux quand même face-à-face avec Cyclops, avec quand même cette case assez marquante, hein, où Cyclops, comment dire, enfin, pulvérise littéralement Sinister, on voit même le squelette, et voilà. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé les comics, et voilà. Et puis après, bon, quand même, j'ai eu une petite période de, comment dire, de un petit peu de blanc qui a été marqué par les mangas, hein, on va dire.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que j'allais te poser comme question, j'allais te demander, comme je sais que tu lis pas mal de mangas et que t'es assez fan,
toujours.
Est-ce qu'il y a eu une espèce de moment où il y a eu un petit peu une collision des univers et t'as fait un choix?
Il y a eu, oui, quand les mangas ont vraiment commencé à pénétrer notre marché français. Donc là, en plus, on est pareil, hein, autour de 94-95, peut-être un peu après.
Ouais. Ouais, avec Dragon Ball, par exemple, qui est arrivé au format papier chez Glénat.
Et après, Senseiya qui doit... Enfin, en tout cas, les éditions j'ai lu qui publiaient Fly, City Hunter, ouais. Yu Yu Hakusho, je crois aussi. C'était chez j'ai lu, il me semble. Ou c'est chez Kana, je sais plus.
Oh, je sais plus, mais en tout cas, c'était à cette époque. C'était 96, par là, quoi.
Ouais, Kana arrive vers 96, quoi. Arrive très très vite. Et donc... oui, effectivement, j'ai peut-être plus été concentré sur les mangas, surtout que les parutions finalement que j'aimais bien en comics, c'est-à-dire, comme je disais, les intégrales, on en trouvait peut-être plus trop, quoi. Hein, c'était plus des, comment dire, des trucs individuels et bon, c'était pas toujours facile à suivre, quoi.
Justement, faut expliquer pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que tout le monde n'a pas notre âge qui est vénérable, hein, maintenant.
Oui, 152 ans, hein.
Des sommets de vieillesse, mais il faut expliquer qu'à l'époque de Semic, donc qui était l'avant Panini, hein, voilà, c'était l'éditeur de Marvel en France, ce qu'il faisait, c'est que les mensuels étaient regroupés par trois dans des albums trimestriels, c'est-à-dire qu'on avait les numéros, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 36, 37, 38, qui étaient dans le même bouquin, à un prix un peu réduit que si on les avait achetés les trois individuellement. Mais par contre, avec un format un peu particulier, puisque le dessus et le côté de la page étaient coupés. C'est-à-dire que c'était légèrement rétréci. Il y avait beaucoup moins d'espace entre les cases et les bords de page, quoi. Voire plus du tout, d'ailleurs.
Et voilà. Et bon, j'ai quand même, enfin, j'avais quand même toujours un fil rouge sur les comics malgré tout, quoi. Voilà. Bon. Jusqu'à une reprise plus acharnée, je dirais, vers la fin des années 2000.
Ouais, et à l'époque, vu que dans les années 90, on n'avait pas Internet, il y avait ce fameux magazine dont on a déjà parlé dans d'autres sphères, le fameux Jam.
Ah, Jam,
un
ouais.
Magazine qui parlait un peu de tout. C'était une espèce de fourre-tout, ça parlait aussi bien jeux vidéo que manga que comics. Moi, je sais que ça me permettait de garder effectivement un petit peu le fil de ce qui se passait dans l'univers des comics, puisqu'ils étaient assez bien fournis et renseignés, quoi. D'ailleurs, je me rappelle d'une double page sur l'ère d'Apocalypse, entre parenthèses.
Il faisait des grands dossiers, hein, de toute manière, chaque mois. Moi, je me souviens que le premier que j'avais acheté, c'était le spécial Senseiya, donc il y avait un énorme dossier de 10 pages là-dessus, et en même temps, il y avait quand même l'actualité mensuelle des sorties, hein, des parutions. Alors US, hein, en général, en plus, il parlait, hein, de ce qui se passait aux US, hein, notamment, il y avait toujours l'article sur les X-Men, et voilà, il y avait les dernières sorties manga, les sorties VHS aussi, hein, manga, puisqu'il y avait, avec la fin du Club Dorothée, malgré tout, il y a eu tout un marché manga qui a continué à exister via les VHS, et d'autres émissions qui pouvaient sortir sur MCM, notamment, Manga Mania, je crois que c'était.
Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait effectivement tout un marché autour de la VHS, et c'était hors de prix. Je me rappelle, par exemple, les films inédits DBZ, avant qu'ils sortent en version officielle, je crois que c'était AK Video qui faisait ça, ou un truc dans le genre, avant que ça sorte, du coup, au format officiel, il y avait des copies plus ou moins officielles que tu pouvais acheter en envoyant du liquide directement à une certaine adresse, ils te donnaient l'adresse dans les magazines. Et c'était genre la VHS, par exemple, je me rappelle, des Mercenaires de l'espace ou de Bio Broly, c'était genre pratiquement 200 francs. ce qui était hors de prix, quoi, pour une simple VHS. Donc, ouais, il y avait un marché de la VHS qui avait explosé autour de la disparition des séries animées au Club de Haut, quoi.
En plus, les films duraient quoi, 40 minutes?
Ouais. Enfin, certains duraient un peu plus. Il y en a, c'était autour d'une heure, mais la plupart, ouais, c'était 45 minutes, quoi.
La plupart étaient mauvais aussi, il faut le dire.
Ouais. Mais c'était tellement comment dire, incroyable de voir des histoires inédites de DBZ, surtout à l'époque. Enfin, ça nous semblait tellement hors de portée, quoi. Bah voilà, enfin, je veux dire, bon... Moi, je sais que je les avais quasiment toutes chopées, et effectivement, ça coûtait la peau du cul, quoi, à chaque fois, une cassette.
Mais les cassettes vidéo, de manière générale, ça, pour tout ce qui était série animée, ça coûtait toujours trop cher. On avait deux ou trois épisodes par cassette, ce qui était vraiment pas
d'ailleurs,
grand-chose.
Pour rebondir par rapport à ce que disait Jonath, je me rappelle que Batman TAS... Alors maintenant, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série, d'ailleurs, pour vraiment pas cher, en Blu-ray. Ça reste toujours formidable, quand même, comme série. Ça, je ne cesserai pas de le dire, c'est vraiment une très très bonne série qu'on peut mater même encore adulte. Mais à l'époque, ouais, sur les VHS, t'avais deux épisodes par VHS, quoi. Et ça coûtait cher, déjà, une VHS. Donc, bon, c'était un autre temps, et valait mieux essayer d'enregistrer que de faire la collection comme ça, officielle, parce que c'était juste pas possible, quoi. Et pareil pour la série Spider-Man. Je me rappelle que t'avais trois épisodes par VHS, et en plus, les épisodes étaient absolument pas dans l'ordre. C'était vraiment un bordel monstre, même pour s'y retrouver quand on achetait les VHS officiels, quoi. Enfin bref, on va peut-être passer à toi, Marty, du coup, pour pas trop avancer dans les années.
Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai eu une période de gestation qui a été un petit peu plus longue. Je pense que mon premier contact avec les super-héros, alors vraiment les super-héros américains, ça devait être Batman The Animated Series, lorsque ça commence à être diffusé en France en 93. Ils l'ont passé en clair, il me semble, sur Canal, avant que ça passe ensuite sur France 3. Alors là, j'étais tout petit, hein. J'avais quoi ? J'avais 5 ans à l'époque. Au niveau lecture, ben forcément à 5 ans, on lit pas encore forcément de bande dessinée, surtout quand personne dans la maison n'en a. Ce qui va vraiment nourrir mon amour des super-héros, ça va être les dessins animés avec donc Batman, pour cette série pour laquelle j'ai gardé vraiment une certaine affection. Et puis, comme tu en parlais à l'instant, la série animée Spider-Man, elle a ses défauts, hein. Graphiquement, c'est pas toujours top, ça peut paraître parfois un peu enfantin, et pourtant, pas tellement que ça. Il y avait vraiment des épisodes horrifiques, et surtout, on a un sens de la continuité. Plus on avance dans la série, même de la première saison, en fait, beaucoup d'épisodes sont en lien entre eux. C'est vraiment cette série qui m'a donné le goût pour la continuité, pour les univers étendus. Comme plus les saisons avancent, plus on a de guests. Dès la saison 2, on a les X-Men du dessin animé X-Men qui apparaissent. Niveau bande dessinée, par contre, à cette époque-là, j'ai pas vraiment l'occasion d'être confronté aux comics. Que ce soit dans ma famille ou à la bibliothèque. Alors moi, j'avais pas de bibliothèque municipale, mais dans mon petit village, on avait évidemment la bibliothèque de l'école, où là, les bandes dessinées, c'était plus traditionnel. Et c'est vraiment dans le franco-belge que va naître mon amour de la BD, avec notamment deux titres. Avec tout d'abord Astérix. Alors celui-là, dans ma famille, quelqu'un avait toute la collection, hein, je les ai lus et relus. Je pense d'ailleurs que si je me suis orienté ensuite vers les études d'histoire, c'est un peu la faute d'Astérix. Et Gaston Lagaffe, également. Grande BD, hein, et... Franquin, énorme artiste, immense artiste, que ce soit du point de vue de ses positions humanistes comme de son trait, hein, beaucoup le disent aujourd'hui, Franquin c'est vraiment un des grands maîtres de la BD franco-belge.
Franquin Richards, bien sûr.
Oui, voilà, Franquin Richards, exactement, oui, merci. Et à côté de ça, voilà, je continue à suivre ce qui était diffusé comme dessin animé. Hein. Bon, il y a eu Superman, j'accrochais moins. Quand Batman est revenu avec le design un peu épuré, j'accrochais un peu moins. Bizarrement, les X-Men, en fait, les X-Men, j'accrochais pas, tout simplement parce que je connaissais très peu, puisque c'était diffusé le samedi matin, et moi, à l'époque, quand j'étais écolier, j'avais cours généralement le samedi matin. Quand je suis arrivé au collège et que mes samedis étaient, que j'avais plus cours le samedi matin, là, par contre, la série était plus diffusée. Et donc, voilà, moi, je continuais à lire beaucoup de franco-belge, à côté, j'en achetais, j'en lisais à la bibliothèque, puis au CDI au collège. Et les séries animées ont continué et sont un peu renouvelées, vu qu'on a eu, notamment là, pour moi, le moment vraiment charnier, ça a été, l'année charnière, ça a été 2001, on va même dire 2001-2002, puisque c'est à cette époque-là que j'ai vu le film X-Men, que j'ai adoré. On a eu successivement sur France 3 la diffusion de X-Men Evolution, puis de Justice League Animated, de la Ligue des Justiciers, deux très bonnes séries également. Et on avait la hype sur Spider-Man, donc vers là, on est à ce moment-là, quand Ligue des Justiciers est diffusée en France, on est, si je dis pas de bêtises, mars 2002, X-Men Evolution est déjà diffusée depuis quelques temps. Et voilà, on a un peu cette hype super-héroïque qui monte avec Spider-Man qui arrive. On a partout les bandes-annonces qui sont, on en parle partout. Il y a des clips à la télé. Il y avait, rappelez-vous, cette superbe musique de Nickelback qui avait été martelée sur les chaînes de musique comme
oh là
MTV.
Là, 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 oui, c'était mauvais ça.
Il y avait aussi une chanson de Sum 41 qui était un peu plus sympa. Bref, enfin, on sentait que les super-héros commençaient à s'implanter beaucoup plus durablement à la télé. Il y avait de plus en plus de séries télé, on n'était pas loin de l'arrivée de Smallville. On avait... je jette un voile pudique sur mes souvenirs sur Lois et Clark, hein, on va peut-être oublier ça.
Oh non, si tu t'en rappelles, tu peux en dire un mot, quoi.
C'est vrai que Lois et Clark, en fait, j'y avais pas pensé quand j'avais un peu pensé à ce que j'allais dire dans l'émission, mais c'est vrai que Lois et Clark, mine de rien, et même les films Superman que j'ai vus gamin, j'aimais bien ça. Mais Lois et Clark, en fait, c'est marrant parce que ça a été diffusé, je sais plus, je devais avoir 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Et déjà là, j'étais un peu frustré parce que la série était un peu petit bras pour tout ce qui était super vilain. Clairement, il y en avait très très peu. On a timidement Metallo un épisode pour un épisode de la saison 1, il me semble. Mais il y a une fois ou deux des Kryptoniens qui se ramènent, mais sinon, il n'y a pas vraiment de super vilain à pouvoir. Il y a quelques histoires aussi de voyages dans le temps un peu tirées par les cheveux, mais il restait quand même assez... Il marchait sur des œufs pour tout ce qui était de la SF. C'était quand même globalement les atermoiements romantiques de Lois et de Clark et Superman qui combat des gangsters, quoi.
C'est ça, ouais. Comme tu dis, c'était petit bras, quoi. Est-ce que tu te souviens, est-ce que vous vous souvenez de la série Flash aussi, du coup, qui date à peu près de la même époque?
Ouais, justement, c'est marrant que t'en parles. Tu vois, là, ça me revient. Ouais, la série Flash, je me rappelle, c'est une des premières séries. Alors, je sais plus quand c'est quoi, c'est 91, 92, quelque chose comme ça?
Ouais, ça doit être ça, ouais.
Quelque chose dans ce genre, et je me rappelle, j'étais tout petit, c'était diffusé à la télé, et ça devait être la première ou une des premières fois où à la télé, c'est la première fois qu'à la télé j'ai vu une pub pour une série, et où j'ai dit à mes parents, oh, faut que je regarde ça, ça a l'air trop bien. Donc, comme quoi, les super-héros, depuis le début, dans ma vie au moins d'amateur d'audiovisuel, ils m'accompagnaient déjà, quoi.
C'est diffusé
le mercredi après-midi, ouais, je crois.
Dans la case de 2h moins le quart. Et une fois que la série est finie, on a eu droit à Highlander, les débuts d'Highlander sur la télé française.
Ah oui, ouais, ça aussi je me rappelle. Ouais. Ouais.
Avec Duncan MacLeod qui conduit sa petite voiture décapotable. Là.
Et Christophe Lambert dans le premier épisode.
Mais oui.
Quand même.
On parlait de violence, c'était quand même assez violent, hein, mine de rien, cette série Highlander.
Ouais, ça va. Quelques têtes sont tombées.
Écoute,
voilà,
après Ken le survivant diffusait le matin, ils étaient plus à ça près.
Moi, je me rappelle qu'il y avait un épisode notamment qui parlait de viol, ce qui était assez, comment dire, c'était pas choquant, mais c'était, je sais pas si à 14h maintenant on passerait ça, quoi.
Je ne pense plus. Ou du moins pas sur les chaînes grand public, quoi.
Non, écoute, on a passé les feux de l'amour pendant des années à 14h. Je pense que quand même, les viols, ils en ont eu assez, quoi, là-dedans. Hein, t'inquiète pas.
Ouais, mais les gamins ne regardaient pas forcément les feux de l'amour, alors que Highlander, moi je sais que j'avais envie de regarder, quoi.
Tout le monde regarde les feux de l'amour. Qu'est-ce que tu racontes, toi?
Quelque part, tu vois, on reste un petit peu, très vaguement, un peu dans la mouvance super-héroïque. Hein, des êtres un peu mystérieux qui se combattent.
Oui. Bah,
il y a une petite influence comic book, je pense, à ne pas négliger.
De toute façon, Wolverine a pompé pas mal Highlander avec toute la mythologie autour de du sabre, là. Comment il s'appelle, oui. Murasaki, non? Je sais plus comment il s'appelle, son espèce.
Murasama.
Murasama.
Le sabre de Murasama, il me semble, ouais. Et il y avait déjà le sabre d'Ogun dans les années 80, enfin...
Après, cela dit, quand il y a sa période japonaise, on est début des années 80, donc tu vois, le côté sabre, Highlander arrive en 84, je crois, hein, le premier.
Oui, bien sûr, non, mais moi ce que je parle, c'est des allusions plus récentes.
Ah oui, oui.
Qui clairement vont aller du côté Highlander, où il y a de la décapitation de Sabretooth et où Wolverine te dit clairement qu'il doit en rester qu'un, quoi. Dans le sens, il doit rester qu'un de la race de Wolverine, qui est une race soi-disant mutante, un peu une branche un petit peu particulière, une branche des... La branche
ça
des
a été vivants. Abandonné tout ça.
Oui, bien sûr.
Non, c'est bon, ils l'ont oublié. Hein.
C'était Jeff Lopp qui avait commencé à délirer là-dessus. À mon avis, il a vu Highlander et il s'est rappelé Highlander, quoi, quand il a fait ça.
Déjà, dans les années 90, dans les fichiers Xavier, on nous expliquait que pour tuer Wolverine, il fallait séparer sa tête. De toute façon, de manière générale, hein, la pop culture américaine, les séries, les films se nourrissent entre eux et puisent un peu dans les mêmes inspirations. Donc, c'est normal qu'on ait des renvois dans tous les sens. Toujours est-il que lorsque on a ces séries et ces films en 2002, là où vraiment on a l'émulsion et où non seulement les super-héros envahissent les écrans, mais où je sens aussi que ben, c'est un peu moins ringard de montrer qu'on aime ça, ça m'a un peu poussé à aller vers les comics. Mais en fait, mon premier comics ne sera pas le X-Men 67 que je vais acheter en 2002, mais en fait, un an plus tôt, je me suis lancé dans les comics via Les Simpsons. Puisque rappelez-vous, Panini publiait déjà au début des années 2000 dans les kiosques des comics Simpsons. Et en gros, de janvier ou de février, alors je sais plus quel numéro, c'est le numéro, voilà. C'est un numéro avec Bartman en couverture, c'est le premier comics que j'ai acheté. C'est le Simpson 5, donc sorti en janvier 2001. Et puis, j'ai continué à peu près pendant un an. Ce qui m'a permis un peu, mine de rien, de me familiariser avec le format comic book, un petit peu aussi avec le vocabulaire. C'est là où, pour la première fois, j'ai entendu parler de crossover, par exemple. Et j'ai fini par sauter le pas, donc, en 2002. Alors, pas tout de suite avec un comics. J'y suis allé vraiment par étapes. Mais je ne sais pas si vous aviez vu ce numéro. C'était le Wizard hors-série numéro 3 qui était consacré aux X-Men. Et qui, en fait, parlait de l'arrivée de Morrison, de Joe Casey. On nous les présentait comme des rockstars. C'était assez marrant. Il y avait des photos dedans où ils étaient en veste en cuir avec des lunettes noires. On parlait de... Le magazine parlait du relancement de plein de séries, du renouveau de X-Force. Et j'étais complètement paumé. Moi, je connaissais un peu les dessins animés. Je connaissais les films. Et en même temps, j'étais paumé. Et en même temps, ça m'assoiffait de connaissances comics. Parce que je me rendais compte qu'il y avait un univers encore plus grand que ce que je pensais qui m'attendait là. Ce qui a fait que j'ai voulu sauter le pas, ça y est, vers le printemps 2002. Et j'ai failli acheter le X-Men 66 et je me suis retenu. Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celui avec Emma Frost sur la couverture. Dans une tenue qui est quand même, on va dire très courte, hein, la tenue que Quitely... invente à Emma Frost dans New X-Men, elle est quand même assez légère.
Donc c'est la période Grant Morrison, quoi.
Voilà, exactement, c'est sa période Grant Morrison, ouais. Et comme, en plus, moi pour les comics, en plus, ce qui n'a pas facilité mon accès, c'est qu'il n'y en avait pas dans les kiosques autour de chez moi. C'était uniquement dans la ville la plus proche, à 20 km, où on allait quand même régulièrement, mais donc voilà, fallait que j'aille avec ma mère qui allait voir sa famille là-bas pour être sûr de pouvoir choper mes comics. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va se dire dans la bagnole ?
Oh putain, c'était le mauvais plan, quoi.
Ouais, voilà. Elle allait se dire, mais. Dans la bagnole, en retour, mais qu'est-ce qu'il lit, quoi ? C'est quoi ce truc avec une femme à moitié à poil ? Et j'ai donc attendu le mois suivant, le 67, avec cette superbe couverture où on a Beast qui pleure.
Oui, ouais. Non mais c'est fou, quoi. C'est vraiment à l'époque... En plus, c'est pas si vieux, quoi, j'ai envie de te dire. Moi, par exemple, j'ai une expérience totalement différente des comics, puisque j'ai commencé bien avant. Mais c'est dingue de se dire qu'encore en début des années 2000, on galérait même pour pouvoir accéder à nos lectures, quoi.
Moi, je viens d'un petit bled d'un millier d'habitants qui est collé à un autre village qui a dans les 2000 habitants, où il y a plusieurs, il y avait des kiosques, des buralistes, quoi. Mm-hmm. Et ils ne vendaient aucun ou presque aucun comics. C'était la croix et la bannière. Fallait quand ma mère allait voir sa famille, fallait que j'aille avec. Comme elle allait plusieurs fois par mois, ça allait. Mais fallait bien que je me coordonne, comme les comics Panini. Si je voulais en acheter plusieurs, ils sortaient pas au même moment, fallait pas que je me loupe. Et heureusement qu'après, j'étais au lycée dans une autre ville. Là, j'avais accès assez facilement à des points presse où là, par contre, tout le monde vendait des comics, donc ça allait, mais c'était assez galère.
Ok, on va peut-être du coup s'arrêter là en ce qui concerne la première période, quoi. Enfin, ton incursion dans l'univers des comics.
Et on va passer à la tienne, je pense.
Ouais. En fait, le plus loin que je me rappelle, moi, c'était les catalogues de jouets Mattel, qui montrait les figurines Secret Wars. C'est vraiment
les fameuses.
La première fois que je voyais, je pense, des personnages issus des comics. Et il y avait notamment la figurine du costume noir, de Spider-Man en costume noir. Fun fact, pour la petite histoire, c'est un fan qui a envoyé... En fait, Marvel a demandé à des fans d'envoyer des croquis de personnages qu'ils voudraient voir... utilisé dans les comics et aussi afin de lancer cette gamme de jouets Secret Wars, puisqu'à l'époque c'est une gamme de jouets et c'est uniquement pensé comme tel, c'est même pas pensé comme un futur comics ou comme un futur événement. Et ensuite ils vont se rendre compte que les jouets rencontrent un succès fou et ils vont en faire un événement comics avec Secret Wars et utiliser à terme notamment ce costume noir et on sait ce que c'est devenu. Donc avant McFarlane qui était frustré de ne pas avoir les droits sur Venom après sa création, puisque quand on crée un personnage pour Marvel, c'est Marvel qui détient les droits, c'est pas l'auteur. D'où toute l'historique en fait, du créateur owned, quoi. Enfin, de ces auteurs qui ont quitté Marvel pour monter Image, etc., parce qu'ils étaient frustrés qu'on leur prenne leur création. Il faut savoir qu'avant Todd McFarlane, il y a ce fan, dont je ne connais même pas le nom, je sais pas si on peut le trouver.
Listan.
Qui a quand même...
Il s'appelle Listan.
Ouais, non, justement, c'est un mec, un mec qui doit avoir quand même un petit peu la haine, enfin un petit peu la haine, qui doit être un petit peu frustré de voir que le personnage est devenu ce qu'il est devenu, bah il ne peut rien toucher dessus, quoi. Mais concrètement, le créateur du costume noir de Venom, c'est un fan qui a juste envoyé un dessin que Marvel a trouvé cool, il a gagné le concours et voilà, quoi, il a eu le droit de voir son dessin adapté en figurine et puis plus tard dans les pages des comics, etc. Mais bon...
Alors ce fan, en fait, c'est Randy Schuller,
ah, voilà,
qui, comme tu le dis, a participé à un concours en 1982. Mm-hmm. Alors il avait 22 ans à l'époque. Il va donner les droits de ce costume pour $220, ce qui est aujourd'hui représenterait $500.
Voilà. Aujourd'hui, il doit quand même... je sais pas ce qu'il fait dans la vie, je sais pas s'il est encore parmi nous, j'espère pour lui. En tout cas, voilà, c'est quand même particulier, quoi, de se dire ça. Quand on voit à quel point le costume noir a donné comme résultat et puis à quel point c'est devenu populaire. Et donc, pour la petite histoire, ouais, ce fameux costume noir, ce Venom, juste par le look, moi je me disais, bah forcément, c'est une version evil de Spider-Man, quoi, c'est une version noire. Alors, en l'occurrence, ça l'est devenu par la force des choses, mais au début, justement, c'était pas le cas, quoi. C'était vraiment simplement un autre costume pour Spider-Man. Et alors, pour l'autre petite histoire, l'autre fun fact aussi par rapport à Venom, c'est que saviez-vous que Venom, à la base, ça ne devait pas du tout être Eddie Brock? C'était une femme qui, alors j'ai plus l'histoire en tête, les détails en tête, mais je crois que c'est une femme qui avait un accident de voiture à cause de Spider-Man, et du coup, bon, alors je sais plus par quel moyen, elle tombait sur le symbiote, et elle vouait, bien sûr, la haine que l'on sait contre Spider-Man. Mais voilà, c'était pas du tout Eddie Brock, c'était pas du tout un homme, c'était une femme à la base qui devait être Venom, quoi. Venom aurait dû être un personnage féminin. Et il faut dire que les origines d'Eddie Brock sont assez bancales et assez mal fichues quand tu lis le numéro 300. Quand il commence à balancer ses origines, c'est un peu pourri parce qu'en fait c'est juste un journaliste qui avait une mauvaise source qui a été révélée par Peter Parker. Et du coup, bah comme le symbiote a la mémoire de l'hôte, donc Eddie Brock sait que Peter Parker, le journaliste qui lui a coûté sa place dans sa rédaction, et nul autre que Spider-Man, et du coup, voilà, il va vouloir se venger. Mais c'est assez bancal, quoi, parce qu'en fait, il se venge d'une erreur qui est, en l'occurrence, une vraie erreur, quoi, puisque c'était une fausse information, quoi.
Ouais, alors, moi, j'ai une anecdote dans ton anecdote.
Vas-y.
Attention, hein, on fait des parenthèses dans les parenthèses. Si le costume noir a été abandonné, c'est parce que McFarlane en avait marre de le dessiner, et donc c'est pour ça qu'on est revenu au costume plus classique. Peut-être que ça expliquerait les origines un peu pourries d'Eddie Brock, peut-être que ça a été fait en vitesse, je ne sais pas, mais voilà, ça viendrait de là.
Alors, ce qui est assez bizarre dans cette assertion, c'est que le costume noir, il est en place bien avant l'arrivée de McFarlane, cela dit.
Oui, mais quand McFarlane est sur le titre et que c'est la superstar, bah, on peut imaginer qu'il avait un peu de poids aussi.
Ouais, ça l'empêchera pas de l'utiliser de temps en temps, hein, quand il veut, donc je pense que c'est plus un petit peu du révisionnisme là, de la part de McFarlane qu'autre chose.
Et puis il est resté tellement longtemps sur Spider-Man en plus que ça valait le coup de tout changer, hein, vraiment.
Oui, il n'est pas resté si longtemps que ça. Il a dû rester... Ah, il est quand même resté une année ou deux.
Au final. Quand même, une année ou deux, ma foi.
Sur Amazing, je sais plus. Mais en tout cas, des numéros 298 au 325, il y a du McFarlane sur Amazing.
C'est fou, ces mecs qui passent en coup de vent et qui te changent tout un univers... Comme Joe Quesada, les mecs ils arrivent, pouf, ils cassent tout, et puis voilà, et puis ils repartent aussitôt.
Mais il n'a pas changé grand chose, parce que de toute façon c'était pas le scénariste de Amazing, c'était David Michelinie. Il a juste été scénariste sur Spider-Man, donc le quatrième titre, qu'il lance en grande pompe en 1990, je crois. Ça se vend à, je crois, au-dessus d'un million d'exemplaires.
Il me semble, ouais.
La fameuse première couve, là.
C'est ça. Mais il ne fera que 14 ou 15 numéros, ou 16 numéros, je crois, au dessin... et au scénario, et ensuite il va partir. Il va utiliser le costume noir dans un arc qui est vraiment pas mémorable. De toute façon, franchement, les épisodes de McFarlane, scénaristiquement parlant, sont absolument pas mémorables.
Mais qu'on a eu dans des rééditions chez Panini, par contre.
Ouais. la transition est toute trouvée, puisque justement j'allais parler de mon premier comics. Alors du coup, mon premier comics, bah, c'était en août 1989, puisque tout simplement je regardais l'animé Ghostbusters à l'époque. J'étais assez fan de cet animé. Bon, autre lien avec les comics, mais c'est pas là où je veux en venir. C'est juste que j'étais tombé donc sur un Strange en kiosque, et sur le Strange, c'était une couverture de la Division Alpha avec une espèce de grand monstre qui s'appelle Tundra, qui n'est pas forcément connu, mais enfin voilà, quoi, c'est une espèce de gros monstre bleu qu'affrontait la Division Alpha. Et je me suis dit, bah tiens, il y a des monstres, c'est cool, je vais prendre ce magazine. Je savais absolument pas ce que c'était. Je voyais la tête de Spider-Man dessus, donc je me suis dit, bon bah à la limite, voilà, il y a ce personnage-là que j'ai déjà vu dans les catalogues de jouets. Donc il doit y avoir ses aventures dans le magazine, je vais voir ça. Et alors, dans ce premier numéro de Strange que j'ai eu, que j'ai, je sais pas, je l'ai lu 150 000 fois du coup depuis, il y avait notamment donc cette Division Alpha de John Byrne. Il y avait le Spider-Man de Todd McFarlane, en l'occurrence c'était un épisode d'Amazing avec le Sandman. Donc graphiquement, Todd McFarlane c'était particulier. Moi quand j'étais petit, j'aimais pas du tout. Je trouvais qu'ils avaient des têtes assez effrayantes, en fait, même les personnages humains. Je trouvais que Peter Parker, ils avaient des têtes trop détaillées. C'était bizarre, quoi. J'étais plus habitué au dessin classique Romita Senior, quoi. Tu vois, quand j'étais petit, ça me semblait plus normal. Et puis, il y avait notamment aussi un épisode de Tony Stark, enfin d'Iron Man, en pleine guerre des armures. Et comme par hasard, c'est l'épisode où Tony Stark se fait complètement atomiser par son ennemi, je crois qu'il s'appelle Firepower, qui lui tire un missile dessus, et à la fin de l'épisode, l'armure d'Iron Man explose, et t'as des décombres qui tombent au sol, et tu vois le casque d'Iron Man complètement ensanglanté qui tombe par terre. Et ça, c'est un visuel qui m'avait profondément marqué. D'ailleurs, je suis même étonné que ça n'ait pas été censuré, puisqu'à l'époque, c'est mis que censurait encore certaines planches. Bah, cette planche-là n'était pas passée... était passée à travers les filets de la censure. Ce qui est assez étonnant, quoi. C'est vraiment un visuel qui, même encore maintenant, est assez, assez dur quand même, quoi, à voir. Je pensais justement que j'avais assisté du coup au dernier épisode, à l'épisode final du titre, quoi. Je voyais pas comment il pouvait en être sorti, quoi. Je me disais, putain, c'est dommage, j'arrive pile poil au dernier épisode, quoi, de la série. Et le dernier titre qui était en cours de publication dans Strange, c'était les Avengers époque. Alors, je crois que c'était David Michelinie au scénario, et devait y avoir peut-être John Byrne aussi au dessin ou au scénario, peut-être en co-scénariste, je ne sais plus. Mais c'était la fameuse attaque du manoir par les maîtres du mal. Et là encore, il y a des planches qui m'avaient vachement marqué, parce qu'il y avait un truc avec l'homme absorbant. Donc déjà, visuellement, pareil, l'homme absorbant, c'était assez, assez incroyable, quoi. Quand j'étais gamin, de voir ça, c'est le mec qui absorbe toutes les propriétés de ce qu'il touche. Et là, notamment, à la fin, il est totalement argenté, un petit peu comme le surfeur d'argent. Et je me rappelle de ce visuel où t'as The Wasp qui se ramène et qui lui fait son espèce de décharge. Elle lui met les deux mains autour de la tête, quoi, et elle le pique, quoi, entre guillemets. Et pareil, ce visuel m'avait particulièrement impressionné, quoi, quand j'étais gamin. Il y avait aussi, dans cet épisode, Mr. Hyde qui détruit totalement le bouclier de Captain America, qui est tenu captif par les maîtres du mal. Donc globalement, en fait, c'était des épisodes, on va dire, assez sombres, assez violents. Il y avait pas mal de visuels, pas mal de pages qui m'avaient marqué, quoi, dans ce Strange. Et voilà, je commençais assez fort dans les comics, puisque c'est quand même des sagas qui restent encore à ce jour assez connues, quoi, tout ça. Et puis, bah alors, ensuite, Strange, c'était plus un truc que je trouvais en vacances. Donc du coup, j'avais un numéro de Strange par an, quoi, à peu près. Donc là, c'était en 89, il a fallu que j'attende 1990 et l'été 1990 pour avoir un second numéro, et pour m'apercevoir, à ma grande stupeur, que Iron Man était bien vivant. Donc déjà, ça c'était la grosse surprise, finalement la série continuait. Et alors pour la blague, le numéro d'Iron Man l'année suivante, c'était un numéro qui se terminait par Tony Stark qui se fait flinguer par une ex. Et du coup, la dernière page, c'est Tony Stark qui reçoit une balle et qui se rend compte que la balle l'a traversée, quoi, et t'as une grosse giclure de sang sur le mur derrière lui. Et je me suis dit, putain, c'est pas possible, à chaque fois que je lis ce personnage, à chaque fois que je le vois, c'est il se fait tuer, quoi. C'est un peu le Kenny de l'univers Marvel.
C'est pire que les Feux de l'amour, en fait.
Mais c'est ça, et le pire, c'est qu'on parle souvent de la Parker Luck.
Attention à ce que tu dis sur les Feux de l'amour, toi.
Totalement, en fait j'y pensais même quand j'étais gamin, quand je voyais ma grand-mère regarder les Feux de l'amour avec...
C'est une passion.
Victor Newman, avec passion, exactement.
Bah oui.
Mais surtout avec
Eric Braeden.
Avec Victor Newman. Victor Newman me faisait penser à Tony Stark.
Ah, totalement. Totalement.
Quand j'étais gamin, je me disais que limite c'était le même perso, quoi. Tu vois,
quand il frappait dans son sac de boxe, là, comme ça, là, c'était formidable.
Non, puis même, enfin, le design à l'époque de Tony Stark, en plus, c'était les moustaches et le mulet. Et
il avait une moustache, il passe les trois quarts des épisodes à boire de l'alcool, oui, forcément.
Ah oui, ouais.
Toujours un verre de brandy à la main.
C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, dès le premier épisode, il y avait une phrase qui m'avait fait marrer, c'est que justement lui il veut se murger, quoi, et il reçoit un scientifique, puis le mec lui dit non moi je prendrais plutôt un jus de pomme. Tu sais, l'air de dire voilà quoi, le mec c'est un alcoolo pas possible. Dès ma première incursion dans Iron Man, le personnage était bien campé, quoi. C'était j'avais vraiment l'image de l'alcoolique notoire, quoi. Et ouais, donc on parle souvent de la Parker Luck, du fait que Spider-Man est super malchanceux. Bah moi je suis désolé, mais quand j'étais gamin, Spider-Man pour moi c'était le mec justement qui avait bien réussi, qui vivait dans un loft à New York avec sa top modèle de femme. Et à côté je voyais Tony Stark qui à chaque fois que je regardais un épisode, enfin que je voyais un épisode, se faisait dézinguer totalement, quoi. Pareil, la troisième fois que je suis tombé sur un Strange, je crois que là cette fois c'est un album relié. C'était Tony Stark qui faisait face à Fing Fang Foom. Et pareil, il se fait écraser par Fing Fang Foom et il termine l'épisode à moitié mort dans son armure. C'est incroyable, quoi. Pour moi, Iron Man était le héros le plus poissard de tout l'univers Marvel. Bon, enfin, voilà. Ça, c'était vraiment pour les premières années. À chaque fois que je lisais des comics, c'était de manière totalement assurée. Il me manquait 90% de la production de l'année, c'était juste 2-3 numéros par an, quoi. Et du coup, je pouvais pas vraiment faire le lien entre les histoires que je lisais, quoi. Je n'avais qu'un bref aperçu de ce qui se passait. Et moi, c'est vraiment à partir de 1995, on y revient justement à cette fameuse année 95 dont Jonath, tu parlais tout à l'heure. C'est à partir de là où je me suis dit, allez, bon bah je vais essayer de m'y mettre. Alors, à l'époque, j'étais vraiment lecteur de manga, notamment, bon, bien sûr, avec Dragon Ball. Mais j'étais aussi intéressé de voir ce que proposaient les Américains avec leurs comics, de voir un petit peu la comparaison, quoi. Je m'intéressais au fonctionnement, à savoir comment un univers comme Spider-Man ou les X-Men pouvaient continuer depuis tant d'années sans interruption, quoi. Ça me semblait complètement fou comparé à un manga, puisque généralement les mangas avaient un début et une fin quand même, malgré tout. Là on était d'ailleurs quasiment arrivé à la fin de Dragon Ball, quoi. C'était déjà connu en France que Dragon Ball allait s'arrêter, on en parlait partout. Donc je me suis mis à acheter un petit peu de Special Strange et de version intégrale X-Men, pour un petit peu me mettre aux X-Men. Alors c'était pas encore l'ère d'Apocalypse, mais on allait y venir, c'était le complot Phalanx, je m'en rappelle, la saga en cours. Donc c'était vraiment juste avant l'ère d'Apocalypse. Et j'avais aussi les numéros avec le Légion qui arrivait pour tuer Xavier, quoi. Donc on était vraiment au tout début de tout ça. Et côté Spider-Man, je me suis pris une version intégrale de Spider-Man et puis... quelques numéros de Strange et de Nova. On était en pleine saga du clone, quoi. C'était vraiment le début de la saga du clone. Je me rappelle notamment d'un magazine, alors je crois que c'est... Je sais pas si c'est une exclusivité française, un hors-série qui s'appelait Le Journal du Clone, et je sais pas si on a eu l'équivalent en VO. Je me demande si c'est pas simplement une construction VF, tu sais, où ils ont mis plusieurs pages issues de plusieurs comics pour essayer de te résumer un petit peu les tenants et les aboutissants du début de la saga du clone. À vérifier, je sais pas, j'ai jamais retrouvé l'équivalent en VO, quoi. Mais grosso modo, j'étais tombé sur ce hors-série qui t'expliquait ce qui s'était passé au début de la saga du clone, parce que c'était vraiment tout un bordel.
C'est un euphémisme, là, Benny.
Oui, non, mais en fait, j'ai toujours eu le chic de tomber sur des moments où vraiment c'était un bordel monstre pour s'y mettre, mais justement c'est ce qui me plaisait, quoi. J'avais vraiment envie de découvrir ce qui s'était passé, de compléter ma collection, et je pense que si j'étais tombé sur des one-shots pas insipides, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, des trucs avec Villains of the Month, et puis voilà, quoi. Enfin, si ça avait été juste un épisode qui n'appelle pas de suite et qui ne rentre pas dans une grande saga, je me demande vraiment si je serais resté, quoi, si j'aurais continué à lire tout ça, parce que justement, ce qui m'intéressait, moi, c'était le côté continuité.
Ouais, bien sûr. Oui.
C'était vraiment un truc qui me fascinait. Et puis alors, des années après, alors faut dire aussi en France qu'on n'avait que Marvel quasiment dans les années 90. DC, il n'y en avait quasiment plus en kiosque de DC. Il n'y avait guère que Semic qui, quand Panini a repris la production Marvel, a commencé à republier du DC en France, notamment dans Strange, puisque Strange est devenu ensuite un magazine qui publiait des séries comme Flash ou la Justice League. Mais ça n'a pas trouvé du tout son public. Ça a fait un flop, pas possible. Et du coup, il a fallu vraiment attendre que Panini commence à publier du DC en 2000... Je crois que c'était 2004-2005, par là. Pour à nouveau avoir énormément de comics DC en français. Bah moi, je m'y suis mis, alors pareil, en Warrior, à l'époque de Final Crisis, quoi. Voilà.
Ah oui.
C'est toujours pareil, quoi. J'ai lu un numéro de Final Crisis, je me suis dit « Putain, ça a l'air pas mal, il se passe plein de choses, j'ai envie de savoir ce qui se passe. » Et voilà, quoi. J'ai dû compléter en partant de là, quoi. Donc à chaque fois, il n'y a rien à faire, je commençais toujours au pire moment, quoi.
Ah oui.
Et voilà.
Bah, de toute façon, comme le dit Stan Lee, hein, n'importe quel numéro peut être le premier numéro d'un lecteur.
Oui, alors ça, c'est une leçon à retenir aussi, si vous écoutez ce podcast et que vous espériez qu'on vous parle de bon Jumping Point. Moi, ma réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Qu'il faut juste commencer quand on a envie, par l'endroit où on a envie. Je veux dire, vous pouvez prendre une série en cours. Pour moi, c'est pas du tout une hérésie. Au contraire, ça montre qu'on est curieux. Et il faut de la curiosité pour se mettre aux comics, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Vu que c'est un univers qui continue depuis tellement longtemps, il faut être curieux, quoi. Sinon, on est très vite désespéré, quoi. Il y a trop de choses à rattraper, donc c'est pas possible.
De toute façon, de nos jours, avec Internet, on peut trouver les renseignements qui nous manquent si vraiment on sent qu'on n'arrive pas à capter ce qui se passe dans une histoire.
Exactement. Et je dirais même que ça enlève un petit peu du charme d'antan de faire ses propres recherches à travers les lectures, quoi.
Oui. C'est sûr. Mais bon, quand on débute et qu'on n'a pas accès justement à la collection d'un grand frère, d'un cousin ou de quelqu'un qui a des comics, ben, ça dépanne bien quand même d'avoir Internet sous la main. Moi, quand j'ai commencé les comics, j'ai eu Internet un peu moins d'un an après. Et qu'est-ce que j'étais content de pouvoir enfin étendre un petit peu mon champ de connaissances.
Ah bah, de toute façon, Internet, c'était l'Eldorado. Hein. Ne serait-ce que d'avoir la correspondance VOVF et de savoir que dans tel numéro, il y avait tel épisode, c'était une aide incroyable, quoi.
Ou de comprendre quand, par exemple, dans un menu de Panini, quand on est jeune lecteur, en plus, moi, à l'époque collégien, on voit qu'il y a une correspondance VO... mais que ce sont pas forcément les mêmes séries et tout, alors que pourtant certains personnages comme Wolverine sont dans chacune d'entre elles, et que même si c'est pas les mêmes scénaristes et dessinateurs, c'est un peu le même style, ça peut être confondant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur mon premier numéro dont je parlais avant, là, le 66, puisque on avait d'abord en premier numéro la fin d'un arc de Joe Casey qui se passe à Londres, enfin bon bref, on va pas le détailler maintenant, mais où Wolverine se fait cramer le bras. Et l'épisode suivant, c'est un numéro de New X-Men où Wolverine dit qu'il est en train de... Depuis qu'il s'est fait brûler, son facteur a du mal à s'en remettre. Et dans ma tête, je me disais, ah bah oui, bah vu que j'avais compris que Wolverine était dans deux équipes différentes...
Son facteur, c'est pas le mec qui livre les colis, hein, c'est son facteur auto-guérisseur.
Oui, facteur auto-guérisseur. Oui. Et comme en plus...
Jonathan, il a une crise de caïsme aigu.
C'est incroyable, hein. Vraiment, mais il paraît que ça arrive beaucoup, hein, à cette époque de l'année en plus.
Ouais. Ah bah à toute époque, hein, j'ai l'impression.
Oui, tous les jours en fait.
T'inquiète pas, Jonathan, t'oublie pas. Hein. Et donc, Logan dit, bah voilà, j'essaie de me remettre de ma blessure, de la brûlure de mon bras. Je me suis dit, oh bah c'est cool, les scénaristes entre eux se coordonnent. Et en fait non, pas du tout, c'est juste que Cassandra Nova lui avait brûlé son bras dans un épisode précédent. Les auteurs entre eux, c'était pas coordonné pour le coup. Donc voilà, des fois on peut avoir aussi des surprises dans ce genre-là.
Ouais, et d'ailleurs, je vais vous redonner la parole. Est-ce que vous aviez un comics, une histoire qui vous a particulièrement marqué?
Tu veux dire quoi, dans les premières années? dans les premiers mois.
Oui, enfin, la première histoire, on va le tourner comme ça, la première histoire qui vous a profondément marqué.
Alors.
Pour une raison X ou Y, hein, d'ailleurs.
Je sais pas si c'est la première ou en tout cas, enfin la plus importante, mais je sais que ma première lecture de Born Again m'a bien retourné quand même, quoi. Et que c'est, enfin, quand j'ai fermé le bouquin, je me suis dit putain merde quand même, quoi.
Ouais.
Alors évidemment, bon, il y a la fin avec New qui est un peu, bon, qui sort un peu nulle part, mais toute la, enfin, je dirais la construction, oui, quelque part la construction de Matt Murdock dans l'histoire via sa déconstruction, hein, disons-le clairement, je trouve que c'est une maîtrise, quoi. Enfin, c'est un truc pour vraiment, c'est un, comment on appelle ça, en fait c'est le manuel parfait pour créer un personnage principal derrière qui le lecteur peut se mettre, quoi. Vraiment, tu as de l'empathie pour lui, quoi. Tu dis pas au bout d'un moment, oh là là, mais qui est con, mais j'en ai marre. Non, tu vois, là pour le coup, Miller, il arrive à te donner l'empathie pour Murdock et moi je me souviens, ouais, que c'est peut-être celle, moi, peut-être qui m'a le plus marqué, ouais, peut-être.
Question, justement, est-ce que tu te rappelles si c'était l'édition Comics USA?
je sais plus.
Moi j'ai l'édition Betty, moi.
Moi j'avais acheté une version, c'était je crois en 2011 ou 2012, une version qui était disponible en grande surface aussi.
D'accord.
Ah oui, oui, ça a été multi-rediffusé, ça. Enfin, multi-republié, hein. Oui, oui, oui.
Et j'allais dire, il faut savoir aussi que dans Strange, Daredevil était publié, et ça s'est arrêté du jour au lendemain, victime de la censure, justement, parce que arrivé à Born Again, c'était jugé trop violent, les épisodes de Miller, et du coup, Semic ne les a pas publiés, en tout cas ne les a pas publiés dans Strange, et je crois que la première publication s'est faite chez Comics USA, qui publiait justement des histoires... différents arcs assez majeurs et généralement assez sombres, puisqu'il y avait notamment la dernière chasse de Kraven qui avait été publiée chez eux, qu'on ne retrouvait pas du tout dans Strange, quoi.
Ah ben là, je vois que Born Again est bien sorti dans Strange, à partir du Strange numéro 210, et qu'il y a eu toute la saga dans... Ah non, tu as raison, ça a terminé.
Non,
ouais,
ça s'arrête au bout d'un moment.
Oui, et tu as raison, c'est dans Collection Super-Héros que la suite paraîtra.
Ouais. Et je crois que c'est Comics USA... Alors c'était peut-être une sous-branche de Semic, hein, je ne sais pas.
Oui, Comics USA, non mais t'as totalement raison. Alors là j'ai la liste complète des différents ouvrages où Born Again a été republié en France. Et oui, il y avait donc d'abord, ça a été coupé en deux, la première moitié dans Strange, puis dans Collection Super-Héros chez Comics USA. Puis après on a une intégrale chez Betty, puis Panini le republie dans un omnibus. Et comme le disait Jonath, il y a eu des sorties dans des éditions disponibles en grande surface. Il y avait Marvel les grandes sagas 8. Marvel Comics, la collection de référence numéro 12, ça c'est la collection là à suivre depuis quelques années, et récemment dans le troisième Icons de Daredevil par Frank Miller.
Ouais, et Jonath, t'avais quel âge alors du coup? T'étais encore assez jeune ou c'est vraiment une...
Oh non, je pense que ça doit être dans les années 2000 par là.
D'accord, ouais, enfin ça va quoi, c'était pas hier quoi, je veux dire.
De toute façon, je pense que Born Again, pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur, faut vraiment arriver à un certain âge quoi, tu vois, enfin je veux dire... Pour vraiment totalement saisir un peu le drame du perso et te mettre derrière lui, ça passe beaucoup mieux quand t'as même, je dirais, la vingtaine, hein, finalement. Hein, parce que bon, quand t'es gamin, je suis pas sûr que tu le lises de la même façon, quoi.
Et toi, Marty, du coup, est-ce que t'as une lecture vraiment, une première lecture marquante?
Si on prend en compte les lectures de nos 5-10 premières années, j'aimerais dire Born Again aussi, hein, ou Dark Knight Returns, ou ce genre de choses. Mais je dirais un premier arc dans les séries que je suivais, vraiment qui m'a marqué. Alors au début, pendant bien 2 ans, je n'achetais que le magazine mensuel X-Men. Hein. Forcément, quand on est ado, on n'a pas beaucoup d'argent de poche.
Ah oui, oui.
Et je pense que le premier arc vraiment qui m'a bien accroché, c'était Planète X, l'avant-dernier arc de Morrison, avec toute la révélation sur qui est Xorn, il y a toute une partie qui se passe sur l'astéroïde M, enfin il y a des retournements de situation,
alors,
la destruction massive.
C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans de Morrison et de fans de ce run qui trouvent que c'est justement la partie la pire de son run, quoi, finalement.
C'est pas le meilleur arc du run, ça je suis d'accord, mais sur le coup, je trouvais que c'était une bonne fin, c'était vraiment une fin où il dynamitait tout.
Moi aussi j'avais beaucoup aimé, hein, cela dit. En lisant comme ça, d'une traite, le run, parce que je l'ai lu des années après, ce run-là, je l'ai lu en deluxe, donc du coup, c'était déjà une version intégrale du run, en 3 volumes, Et franchement, je m'attendais. On m'avait dit, tu vas voir, c'est un peu différent ce qu'a fait Morrison. C'est peut-être un peu plus élitiste, un peu plus. Enfin, ça sort un petit peu du cadre des comics mainstream. Et au contraire, moi, j'avais trouvé ça très abordable pour n'importe qui.
Oui, oui, c'est pas si élitiste que ça. Je vois pas d'où il sort.
Non. Autant Morrison peut l'être sur certaines séries. Batman, c'est quand même très compliqué.
Oui, oui, beaucoup plus.
Autant sur les X-Men, je trouve que son run est totalement abordable. Quand je disais tout à l'heure que j'avais commencé les X-Men dans les années 90, j'avais très vite arrêté. Faute de budget, justement, comme tu viens de le dire, je me suis concentré uniquement sur Spider-Man pendant des années. Je me suis remis aux X-Men que dans les années 2000 avec justement ce run de Morrison. Et honnêtement, ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier des X-Men sans aucun problème, quoi. Pour moi, Morrison a fait du X-Men pur jus.
Bah, les thématiques sont là, hein.
Toutes les thématiques sont là. Alors oui, parfois il y a des, comment dire, il y a un graphisme des dessinateurs un peu particulier. Hein. Il y a du Frank Quitely, etc. C'est sûr que ça tranche par rapport à ce qu'on a pu avoir avant et même ce qu'on a maintenant.
Il a eu des problèmes au niveau des dessinateurs. On lui a quand même mis des dessinateurs différents, parfois appelés à la dernière minute au milieu d'un arc. Ça, c'était pas terrible.
Ouais,
ça.
Igor Cordé et compagnie. Mais franchement, dans la globalité, non seulement j'ai beaucoup apprécié ce run. Mais en plus, voilà, je trouve qu'il est très abordable. Si vous n'avez rien lu des X-Men et que vous voulez lire le run de Morrison et que vous vous dites que ça risque d'être compliqué, bah pas du tout, quoi. Vous pouvez y aller.
C'était mon cas. En plus, faut savoir un truc, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il était moins élitiste sur les X-Men que sur d'autres titres, que même sur la JLA qu'il a écrit avant, c'est que Morrison ne connaissait même pas vraiment les X-Men avant d'écrire le titre. Je crois qu'il n'en avait jamais lu ou très peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait des erreurs du genre, il ramène Unus, qui est un personnage qui est principalement connu par la façon dont il est mort. Et Morrison, il le sait pas, il le ramène. Bon, bah voilà. Là, les éditeurs n'ont aussi pas fait leur boulot. Enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, Morrison a vraiment abordé les X-Men avec le peu de choses qu'il savait sur le titre. Ce qui fait qu'il ne va pas non plus nous sortir des éléments de continuité de derrière les fagots. Il va pas essayer de se raccrocher à des vieilles branches. Il va vraiment écrire son histoire qu'il imagine de A à Z et qui peut se lire indépendamment du reste de A à Z.
Et pourtant, il n'y a pas plus, pas moins de continuité qu'avec les autres auteurs. J'ai pas remarqué, tu vois, une absence totale de référence. Au contraire, même, puisque même dès son premier épisode, il te ressort un Trask et les Sentinelles, quoi.
Ouais, enfin, il sort un descendant de Trask. Enfin, oui, après, il pioche quand même dans les fondamentaux. C'est pas totalement en dehors de la continuité. Mais disons qu'il ne cherche pas à faire... c'est pas un Claremont, quoi. Qui, lui, veut référencer tout et n'importe quoi. Un petit peu trop parfois, d'ailleurs.
Oui.
En fait, je pensais quand même, premier choc de lecture. En fait, il y avait Morrison, mais au bout de... Allez, ça faisait peut-être un an et demi de comics, ayant un peu plus d'argent de poche, j'ai commencé à acheter le deuxième mensuel de l'époque consacré aux X-Men, qui était Extreme X-Men. Et il y avait une petite série de Extreme X-Men qui s'appelle X-Statics. Moi, le moment où j'ai pris le magazine en route, X-Force était déjà devenu X-Statics. Et je pense que là, vraiment, c'est peut-être là où j'ai pris ma plus grosse claque. Parce que ce soit au niveau déjà du graphisme, mais surtout de l'histoire, des thématiques, du ton, de la façon dont les personnages étaient dépeints, de la façon dont certaines intrigues se terminaient, j'ai été déstabilisé, mais dès le début, j'ai accroché. Et ça m'a montré, en fait, vraiment avec ce titre, que dans les comics, même mainstream, on pouvait avoir des choses qui sortaient de l'ordinaire, voire qui étaient impertinentes.
Bah, c'était limite de l'indé, quoi, en fait, ce qui ne disait pas son nom.
Ah oui, 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 oui. Mais même, de manière générale, alors, faudrait consacrer toute une émission à ça, mais toute la période de 2000-2001 jusqu'à 2003-2004, Quesada a essayé d'insuffler un peu un souffle indé dans de nombreux titres mainstream. C'était le but avoué.
Oui, oui, totalement. Totalement. Alors, si on en a terminé avec ça, moi, de toute façon, j'ai déjà parlé tout à l'heure de premiers comics qui m'avaient fortement marqué, donc je vais pas revenir dessus. Est-ce que vous avez eu des personnages favoris ou des univers favoris très tôt, quoi. Enfin, je veux dire, quels étaient vos premiers personnages favoris ou vos premiers univers comics favoris, quoi. Qu'est-ce qui vous intéressait?
Vas-y, Jonathan, là, on a pas mal parlé, nous.
Ah non, vas-y, vas-y, j'ai commencé deux
oui,
fois.
Oui, je suis pas pressé.
Je vais aller faire le passage. Allez, Malice, j'y vais.
Bah, pour moi, c'est simple, ça a été les X-Men. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de me mettre aux comics. J'ai adoré d'emblée et j'en suis jamais vraiment sorti. J'y reviens toujours aux X-Men, je ne peux pas m'en éloigner. Tous les chemins m'y ramènent à nouveau. Et pendant longtemps, quand je pouvais m'acheter peu de comics, je me concentrais vraiment sur cet univers-là.
Et il y avait un personnage ou quelques personnages qui vraiment avaient ta préférence dans les X-Men, du coup ?
Ouais, mais ils sont une dizaine, donc ça va être trop long de les énumérer. J'avais pas un seul personnage en particulier que j'appréciais. Je les aimais vraiment tous. Et en fait, assez tôt, j'ai quand même compris que, notamment pour les titres d'équipe, ce qui importait, c'était plus ce que le scénariste avait à dire que le personnage en lui-même, quoi. J'ai vraiment très tôt adhéré à cette idée que y a pas de mauvais personnages, il y a des mauvais scénaristes. Alors après, évidemment, il y a des personnages ou des thématiques qui nous touchent plus. Mais moi, dans les X-Men, on va dire le gros, les X-Men les plus emblématiques.
Le gros, hein, et gros.
Wolverine, le Fauve, Diablo, Iceberg. C'est vraiment des personnages auxquels j'ai accroché d'emblée, quoi.
Ok. Et Jonath, toi, alors du coup, le personnage vers lequel t'avais envie d'aller ou de lire ou de suivre ?
Je dirais que ce qui m'a vraiment accroché aux comics proper à l'époque, alors que bon, j'ai commencé par Batman, et ben c'est aussi les X-Men, tu vois. Finalement, les histoires de Batman en comics, alors c'est vrai que c'était une période aussi avec Kelly Jones, avec, comment il s'appelait, Doug Munch, qui n'était pas forcément la plus facile, hein. Il y avait avant, bon,
ouais.
Je dirais, comment ça s'appelle, avant Prodigal Son, c'était bah, avec Nightfall.
Nightfall.
Je suis con, Nightfall. Bon, alors c'était pas forcément les périodes les plus faciles pour entrer dedans, quoi. Mais vraiment, c'est les X-Men. Déjà, le destin, bah forcément, dans les années 90, au dessin, les X-Men, il y avait tous les rockstars qui passaient, donc du coup, c'était plutôt avantageux pour ça. Et puis, les histoires, en général, j'aimais bien les histoires d'équipe, j'aimais bien aussi les histoires qui étaient dépeintes avec les X-Men. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, bah, le personnage qui me garde un peu dans les comics, bah, je reviens à Born Again, c'est Daredevil, quoi. C'est vraiment le personnage que je peux me relire les runs de Bendis, de Brubaker, et puis derrière ce qui est arrivé, enfin, vraiment, je trouve que...
Andy Deagle.
Ouais, bien sûr, Andy Deagle. Ouais. Mais cela dit, ses débuts étaient pas si mal, franchement, c'était bien.
Franchement, c'était pas si mal. Oui, c'était pas si mal, c'était pas si mal.
Et aussi, il a fallu qu'il fasse avec la fin de Shadowland, enfin avec aussi.
C'est ça, voilà. C'est ça. Ouais. Je pense que c'était plus l'éditorial qui a chié sur ce qu'il voulait faire.
On pourra faire une émission si on veut une fois sur Shadowland, mais franchement, je trouve que le concept d'arriver à ce concept-là, c'était une suite logique de 10 ans sur Daredevil.
On pourrait faire un jour effectivement un comics run sur Andy Deagle sur Daredevil. Hein. C'est un run de comics.
Ah bah totalement.
Parce que voilà, le problème de Shadowland en soi, c'est la fin, quoi. C'est le côté ah bah non, on s'est trop amusé pendant 15 ans, maintenant on range tout, quoi. Allez, terminé, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Et ça casse tout. Et Andy Deagle, bah après, démerde-toi, fais-nous un reborn.
Shadowland, de mémoire, je crois que c'est 2010 ou 2011.
2010, ouais.
Ouais.
C'est grosso modo la même période que Fear Itself. Peut-être qu'il y a eu un effet Fear Itself. Par exemple, Fear Itself, alors c'est vraiment pas terrible. Hein, c'est vraiment même naze, Fear Itself. Mais à la base, ça devait juste être un arc de Thor ou un crossover entre Thor et Captain America. Enfin, c'était vraiment Fraction qui avait sa petite histoire. On lui a dit non, t'en fais un gros event, on a gonflé le truc. Et peut-être que c'est aussi ce qui est arrivé à Shadowland.
Oui, peut-être.
Et donc, parmi les X-Men, parce que peut-être tu avais posé la question à Marty, quel était éventuellement le perso que j'aimais beaucoup ? Et j'avoue que...
Wolverine, bien sûr.
Attends, le Wolverine, je dirais jusqu'à la fin des années 90, franchement, j'ai aucun problème avec lui. Hein. Je trouve que c'est... voilà, il est dans son rôle, quoi, tu vois.
Par contre, lui, il a des problèmes avec toi. Hein.
Ah oui, je lui casse la gueule, donc... et j'avais aucun problème avec lui. Et le Wolverine du dessin animé, franchement, il était classe, quoi. Il était vachement bien, quoi. Et c'était un peu celui qu'on retrouvait en comics. En fait, j'aimais la Gold Team, la Blue Team. Enfin voilà, quoi. C'est les mecs de enfin les X-Men de ces années-là. Et puis évidemment, il y avait toute la famille Summers, hein, qui se reproduisait tous entre eux. C'est parfait, quoi. C'était génial, quoi. Voilà. Avec Cable, j'aimais beaucoup.
On y est revenu, hein, j'ai l'impression.
J'aimais beaucoup Cable et X-Men aussi. Donc voilà.
Et oui, Wolverine, je pense que le moment où tu as décroché, c'est le moment à House of M où il y a eu ce Wolverine qui s'est rappelé de son passé. Et...
Bah déjà, bon, moi ce qui m'avait un peu choqué, c'était dans le run de Morrison, le côté Cyclope qui se met comme ça du jour au lendemain à tromper Jean Grey, quoi, tu vois, à se mettre avec Emma Frost, et puis enfin, tout ce truc-là, tout ce triangle amoureux, je dis oh, ça va, quoi. Non mais je trouvais que c'était, enfin... C'était out of character, quoi, pour tout le monde, hein, pour Scott, Jean Grey, pour Wolverine, enfin, pour Emma, bon, peut-être pas Emma, mais voilà, Wolverine, C'est vrai que derrière, ce côté-là de toujours revenir à son histoire, toujours revenir à son passé, je trouve que c'est un boulet qu'on lui a mis au pied, alors qu'en fait, ce mec, il a pas besoin de ça, quoi. Et il était très bien comme il était, sans qu'on sache ce qu'il avait fait avant, quoi. Franchement...
Ouais, je comprends le côté... le personnage fonctionne peut-être mieux entouré de mystères, et finalement, il n'y a pas besoin d'expliquer, quoi.
Et voilà, ça, c'est ça aussi que ça lui donne... tout le monde semble le connaître, on sait pas pourquoi... Mais voilà, il y a ce côté mystérieux. Et raconter son histoire, je vois pas...
Ouais, je vais faire une comparaison comics. C'est comme si dans Walking Dead, finalement, on t'avait expliqué l'origine de la contagion.
Exactement.
Finalement, c'est pas plus mal qu'on ne le sache pas.
Pour moi, ça casse tout le truc de Walking Dead. Ça aurait cassé tout le truc de Walking Dead. C'est justement le fait de... Ben voilà, on s'en fout, quoi. On n'est pas là pour raconter ça. Tu vois, c'est comme... Et ça va parler à Marty dans Leftover. Finalement... pendant une grande partie de la série, pour pas dire la majorité, on ne t'explique pas le pourquoi du comment de la disparition des gens, quoi. On est là pour raconter ce qui se passe maintenant, quoi. Voilà. Et ça se suffit, quoi.
Entièrement d'accord avec toi, Jonathan.
Alors, on va continuer avec autre chose. Bah non, j'ai pas répondu, moi, à la question. Je suis con.
On n'osait pas te le dire.
Cette fameuse question.
Que t'avais pas répondu, hein, pas que t'étais bête.
Ouais, voilà.
Oui, t'as vu du monde.
Donc... l'univers, le personnage vers lequel je me sentais le plus attiré, bah moi c'est tout simple en fait, c'est Batman. Tout simplement parce que quand j'étais gamin, je regardais...
Tes parents ont été assassinés dans une ruelle sombre.
J'allais dire un truc, mais je pense que ça serait mal passé. Enfin, ça aurait été très bizarre. Non mais oui, donc, en parlant de ruelle sombre, Batman justement. Dans les rues de Lille, il y avait, dans une ruelle sombre, il y avait une boutique, un comic shop qui s'appelait Dangereuse Vision, qui malheureusement n'existe plus, que certaines personnes doivent bien connaître, qui proposait notamment en 1989, lorsqu'il y a eu le film Batman, une quantité de parutions et de goodies liés à Batman. Je me souviens notamment d'un buste de Double Face et du Joker, enfin vraiment, tu sais, des personnages que, quand tu les découvres et que t'as 6 ans, bah, enfin voilà quoi, visuellement, ces personnages-là, de marque, quoi. Et mon père m'a emmené avec lui voir le Batman de Tim Burton au ciné, quoi. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, puisque j'ai trouvé après coup que le film était normalement interdit au moins de 12 ans. Bon, je sais pas comment je suis rentré, mais en tout cas, je l'ai vu. Et forcément, enfin, voilà, le Batman de Burton, quand tu vois ça à 6 ans, enfin, c'est... Ça te marque, quoi. C'est devenu vraiment mon univers, mon personnage préféré à partir de là. Mais le truc particulier, en fait, c'est que moi, c'est pas Batman, c'est pas les super-héros que j'aimais bien. Justement, c'était les super-vilains. Moi, j'étais beaucoup plus fan du Joker, de Double Face, même de Catwoman, etc. Que des héros, quoi.
De Croc, de Clayface.
Bah, Clayface, j'adorais, quoi. Quand j'étais gamin, le dessin animé, les épisodes avec Clayface, j'étais super content.
Ah, pareil.
Mais de Talia, évidemment, de Talia, merde.
Mais oui. Mais dans le Batman des années 60, qui passait à l'époque dans Sam Dynamite, le truc, c'était que chaque semaine, la question, c'était de savoir qui allait être le vilain, quoi. Qui allait être le méchant. Et selon qui c'était, l'épisode allait être plus ou moins bon. Alors j'espérais bien sûr que ce soit le Joker assez souvent, puisque c'était quand même mon perso préféré, quoi, ce satané Joker. D'ailleurs, quand j'étais gamin et que je jouais avec d'autres à Batman, à ce genre de conneries, quoi, je voulais toujours être le méchant, moi. Je voulais pas être Batman, j'en avais rien à foutre, quoi, de Batman. Et je pense vraiment que un bon univers de super-héros, c'est avant tout un univers où il y a de très bons super-vilains. Voilà. Et j'ai retrouvé un petit peu ça dans Spider-Man, quoi, dans les années 90. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas de DC publié en France, malheureusement. En tout cas, très très peu, hein. C'était des albums, comme tu dis, Jonathan, en fer blanc et compagnie, mais c'était peau de chagrin, quoi, dans les années 90. Et du coup, dans les années 90, comme il n'y avait quasiment que Marvel, bah c'est peut-être pour ça que je me suis tourné vers Spider-Man, parce que j'estimais que Spider-Man avait quand même une galerie de super-vilains assez, assez intéressante, quoi, qui se rapprochait peut-être un peu de ce qu'avait Batman. Alors, la galerie de super-vilains de Spider-Man est quand même en deçà de celle de Batman, on fera pas mieux que Joker, Double Face, etc. Mais bon... Mysterio, le bouffon vert, etc. Le vautour, allez, j'avoue du bon, je suis là.
Le caïd.
Ben le caïd qui, je trouvais que c'était une erreur dans le dessin animé de le mettre comme méchant principal de Spider-Man, puisque pour moi c'était plus un méchant de Daredevil.
Ah, oh, bah, il y a débat.
Bah, historiquement, à la base, il est plus chez Spider-Man.
Exactement, Jonathan, t'as raison. Si on regarde effectivement la période Stan Lee, John Romita Sr., le Caïd, c'est un ennemi régulier de Spider-Man. Mais c'est vrai que ça s'était un peu perdu avec les années, et que du coup, dans l'inconscient collectif, c'était devenu plus un ennemi de Daredevil.
Ouais, mais il fournit un bon fil rouge sur toute la série.
Ouais.
Bah, disons la version Caïd très, très implacable, quoi, tu vois. C'est plus Miller qui en a fait ce vraiment. Parce que je vais pas dire que c'était une blague avec Spider-Man, mais bon, on n'était pas là non plus là.
Si, oui, non, mais c'était beaucoup plus léger. Puis même dans les années 60, le Caïd qui fait face à Spider-Man, qui ressemble plus au Caïd de l'animé, même s'il est plus menaçant dans les comics, quand même, c'est quand même beaucoup plus léger qu'un Born Again, quoi. Là, on est vraiment sur du. Sur le Caïd qui va essayer de dérober la tablette du temps pour avoir la jeunesse éternelle, enfin tu vois ce genre de truc, et c'est jamais très méchant, quoi. Il va pas tuer tout l'entourage de Spider-Man, il va pas faire aussi fort que Norman Osborn, quoi, par exemple.
Oui c'est sûr, mais dans le dessin animé c'était une bonne idée, dans le sens où vu que le Caïd c'est un mafieux qui a des connexions avec tout le monde et qui a beaucoup de ressources, il sert un peu de fil conducteur sur toute la série. C'est lui qui rassemble par exemple les Sinister Six. Enfin, les Insidious Six dans le dessin animé, il est en conflit avec Norman Osborn, il est en conflit avec les autres mafieux aussi. Il fédère un petit peu autour de lui toute la galaxie des vilains. Et ça, c'était pas trop mal trouvé, je trouve.
Question, était-ce une idée ou était-ce dû au format des dessins animés de l'époque? Parce que, par exemple, dans Cops, t'avais exactement l'homologue du Caïd, l'espèce de gros chef mafieux là, qui était le chef de gang, qui était l'ennemi récurrent et qui rassemblait justement tous les autres autour de lui. Et t'avais plein de séries comme ça, par exemple, je sais pas si vous rappelez des motards de l'espace qui étaient des...
Oui, les souris.
Les souris. Pareil, il y avait une espèce de, je vais le dire vulgairement, de gros lard comme ça qui leur servait d'adversaire récurrent, qui avait un petit peu le design du Caïd et de l'ennemi de Cops, quoi.
Ah non, mais ça c'est un grand classique, hein, Le mafieux un peu difforme, évidemment, oui.
Mais le pingouin.
Je pense que dans la plupart des séries américaines de l'époque, il y avait cet antagoniste régulier qui ressemblait vraiment au Caïd.
Oui, il y avait une grossophobie un petit peu.
Ouais.
Aussi, oui. En tout cas, c'était bien trouvé, je trouve, pour le coup. Peut-être que ça a aidé à redorer son blason aussi dans les comics et à inciter les auteurs à plus l'utiliser du côté de Spider-Man.
Alors je sais pas si ça redorait son blason et je sais pas s'il a vraiment été plus utilisé dans Spider-Man après le dessin animé. Mais cela dit...
Il fait de la muscu dans Daredevil, hein, donc ça va.
Avant que je dise n'importe quoi, faut aussi préciser que ce dessin animé, justement Spider-Man, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une production américaine, je crois, c'est une production essentiellement asiatique. Ce qui ne se voit pas d'ailleurs dans l'animé.
Je sais pas, vu que c'était diffusé sur Fox Kids...
Je crois que c'est des studios asiatiques, mais en collaboration bien sûr avec des studios américains, quoi.
Écoute, production companies, je vois Marvel Film Animation, Tokyo Movie Shinsha.
Voilà.
Et c'était distribué par New World International. Donc ouais, c'était une coproduction nippo-américaine. Après, les auteurs, quand tu regardes, ça reste des auteurs américains, avec de temps en temps des apparitions de scénaristes qu'on connaît.
Oui, donc je disais, c'est avec ces personnages que vraiment, je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi, un bon comic book, c'est un comic book où les vilains sont vraiment très très bons, quoi.
Tu crois vraiment qu'il faut forcément un grand vilain pour faire une bonne histoire?
Ah non, pas forcément un grand vilain, mais je veux dire la galerie des méchants.
Ben, regarde Flash, franchement, sur le papier, la majorité des ennemis de Flash, c'est quand même une vaste blague. Mais quand tu les mets en...
Oui, mais justement, ils sont très très bons.
Quand ils sont dans les mains d'un bon auteur, quoi.
Ouais. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas forcément par la vitrine qu'il faut juger non plus les persos, quoi. Voilà, il y a toute une part d'écriture. Mais je trouve que dans les X-Men, justement, il y a de très bons antagonistes. Hein. Mine de rien, Magneto, c'est quand même...
J'ai envie de te dire que peut-être le plus grand bestiaire de vilain, il est là-bas, hein, parce qu'on a tout quand même. Hein. On a les racistes, on a Magneto qui est un peu, l'opposé un peu des X-Men, hein, de l'idéologie de Xavier, on a le fanat de l'évolution avec Sinistre, on a...
Magneto, c'est un peu le Hiki des X-Men, quoi.
Ouais, si on veut. Il y a le survivaliste, enfin, la théorie du darwinien, si je puis dire, hein, avec, comment il s'appelle, Apocalypse, le...
Darwinien et suprémaciste en même temps.
Ouais, plus suprémaciste que darwinien, on va dire. Mais oui, il y a plein, chez les X-Men, c'est...
Vous avez des fanatiques religieux aussi de temps en temps.
Oui, Bolivar Trask.
En fait, chez les X-Men, on a à la fois les méchants du côté des humains et les méchants du côté des mutants. C'est ça qui est un peu intéressant, c'est qu'il y a deux groupes dans lesquels piocher et des groupes qui n'ont pas du tout les mêmes aspérités, quoi.
Non, mais je comprends que les X-Men vous aient autant marqué. Et puis,
Après, sur les méchants de Batman, la galerie des personnages est vachement bien réussie. Tu vois, c'est là tout l'avantage d'un perso comme Batman, c'est que ça reste un peu plus terre-à-terre, quoi. Tu vois, que le super-pouvoir, le super-pyjama, quoi. Donc ça facilite un peu les choses, quoi, toi, pour raconter des histoires.
Exactement, ouais. Je pense qu'un film comme The Dark Knight... Attends, c'était bien le numéro 2 de Nolan,
ouais.
C'est bien The Dark Knight. Mmh. Ouais, voilà. A eu aussi un succès critique aussi général, parce que c'est du super-héros, mais ça reste du super-héros... Comme tu dis, Jonath, qui est assez terre-à-terre, c'est pratiquement un polar, plus qu'un film de super-héros.
C'est Hit, hein. C'est Hit, le film.
Oui, totalement, totalement.
Ah ouais. C'était même limite agaçant. Il y avait des gens, j'avais l'impression que pour se dédouaner du fait qu'ils avaient aimé Dark Knight, ils étaient obligés de dire que c'était un film de super-héros, alors ouvrez les guillemets réalistes, ou que oui, c'est pas ce qu'il y a de plus important, le côté super-héroïque. Ça devenait agaçant, parce que vraiment, je sentais qu'il y avait des personnes qui rechignaient à dire qu'ils avaient vraiment trouvé que le meilleur film de l'année était un film de super-héros.
Pour moi, The Dark Knight est un bon film, c'est un bon polar, mais ce n'est pas un bon Batman. Parce que justement...
Ah, moi, je suis pas d'accord.
Il n'y a pas tous les ingrédients qui font que...
Non, je suis pas du tout d'accord.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord non plus. Moi, je dirais que c'est un bon Batman, c'est un bon film de super-héros. Pour moi, c'est le meilleur blockbuster adapté de comics qu'on ait eu. Mais par contre, c'est pas le meilleur film de super-héros qu'on ait eu. Je sais pas si vous me suivez, quoi. Par exemple, je trouve que les Spider-Man de Rémy sont des meilleurs films de super-héros.
Oh, pff, non.
Rémy sans famille.
Ah, c'est mieux Rémy sans famille.
Voilà, exactement, oui.
Rémy, c'est Apocalypse.
Non, mais il y aurait toute une discussion à avoir autour de Batman de Nolan, mais par contre, là...
On lance des pistes, là.
Par contre, on va partir en hors-sujet. Mine de rien, je vois déjà le temps qui tourne dans cette émission.
Et c'est le temps qui court.
Les grands esprits se rencontrent, Jonath.
Alors... Est-ce que...
Changer les plaisirs.
Je sais plus, putain.
La vie nous a rendu.
J'allais vous poser un truc et je sais plus, du coup.
Plus orgueilleux.
Merde, putain. Ce moment-là, va falloir le couper.
Parce que le temps qui court.
Et alors sinon, comment êtes-vous devenu lecteur régulier à force? Parce que là, on a parlé de toutes nos incursions diverses et variées, nos points d'entrée dans les comics, mais qu'est-ce qui vous a vraiment... À partir de quel moment, en fait, vous êtes devenu un lecteur régulier et assidu, quoi?
Eh ben, tu vois, pour ma part, comme je disais avant, mon premier X-Men, c'était le X-Men 67.
Ça, à force, on va le savoir, hein. On va le savoir.
Non, mais alors attends. Oui, je sais, non, mais vous en foutez de ma vie, hein, je m'en doute bien. Hein, c'est...
Non, mais je veux dire, ce numéro 67,
Pourquoi? C'est parce que je suis devenu lecteur assidu à partir du 69. Puisque le 68, je l'ai tout simplement loupé. C'est que, comme je vous le disais, pour trouver les comics, j'en trouvais pas près de chez moi, ça dépendait de quand j'allais en ville. Et bien, tout simplement, j'ai loupé le X-Men 68. Donc, il a fallu que j'attende le 69 pour vraiment, là, par contre, ne plus louper les numéros. Mais en fait, dès le 67, j'ai été totalement happé, quoi. J'ai été pris dans la machine et j'en suis plus jamais sorti.
Et du coup, alors, tu as continué pendant des années à lire du X-Men? Ou tu as étendu assez rapidement ton champ de vision?
C'est printemps 2002, quelque chose comme ça que je commence. Et puis ensuite, j'ai assez étendu puisque je suis passé à Xtreme. Et vers, ça devait être janvier 2004, quelque chose comme ça. J'ai tenté pendant un an Ultimate X-Men, que j'ai arrêté au bout d'un moment un peu faute de moyens, et je sais pas si vous vous rappelez du magazine Maximum X-Men.
Alors là, franchement, ça me dit rien comme ça, mais il y avait quoi dedans, du coup?
C'était un magazine où il y avait deux épisodes VO par mois dedans, et on changeait de série un mois sur deux. En gros, les mois pairs, c'était Mystique, les mois impairs, c'était New Mutants, qui par la suite avait été remplacé par le titre de Malicia. Et j'avais suivi, mais uniquement par contre la partie Mystique, encore une fois, faute d'argent, tout ça. Quoi. Série de Brian Cavone, qu'il faut vraiment lire si vous ne l'avez jamais vue, parce qu'elle est vraiment, elle vaut le coup, hein. C'est une très très bonne lecture. C'est un récit d'espionnage qui introduit d'ailleurs un réseau d'espions de Xavier qu'on n'a jamais revu depuis, avec notamment le personnage de Shortpack, que j'aimais beaucoup, et qui a complètement disparu, qu'on n'a plus jamais revu après.
Attends, qu'il n'y ait pas de confusion, Brian Kevogan, de White,
oui,
the Last Man, d'accord, ok.
Exactement, ouais, lui-même, ouais. C'était avant qu'il s'attaque aux X-Men, aux Ultimate X-Men. D'ailleurs, Ultimate X-Men, j'ai lu, en gros, j'ai pris à la même époque, c'était au milieu de là, du dernier arc de Millar. J'ai eu toute la période Bendis, puis après j'ai arrêté pour justement suivre Millar sur Spider-Man, parce qu'en VF, on allait avoir son titre dans le mensuel Spider-Man, et je voulais un petit peu varier un peu mes lectures, mais là, encore une fois, faute d'argent, j'ai arrêté au bout de quelques mois. Puis finalement, avec l'arrivée du titre New Avengers dans Marvel Icons, ça je crois que c'est septembre 2005, quelque chose comme ça, là par contre, j'ai commencé Marvel Icons, du coup, le Marvel Icons 5, et là j'ai pu arrêter jusqu'au bout de la série. Là vraiment, je me suis lancé dans une diversification de ce que je disais.
Ok, et toi Jonathan, du coup, pour ta part, alors...
Comment je suis devenu un lecteur régulier? Alors ça...
À partir de quand
C'est compliqué à dire. Le souci, c'est que on finit toujours par devenir plus régulier, forcément, quand le portefeuille devient plus extensible. Donc fatalement, c'est plus arrivé quand j'ai dépassé la vingtaine et que voilà, j'ai commencé un petit peu à avoir un peu d'argent. Avant, je suivais quand même les histoires,
mais tu faisais des
passes. Je faisais des passes, ouais. Oui, je faisais des passes. J'avais une autre identité. Je m'appelais Mademoiselle Jonas.
Ah, j'ai le visuel de l'enfer, putain. Bonjour, je viens voir Madame Jounat.
Non,
mais bon, bref.
Cette émission est hors de contrôle.
Et donc, effectivement, quand la poche a été plus extensible, pas la poche de kangourou, évidemment, quand la poche a été plus extensible, ça m'a permis de pouvoir, je dirais, acheter les comics de manière plus soutenue, en kiosque. J'ai enfin trouvé le mot.
Ouais, mais c'était quelle série, du coup?
Alors, quand on est vraiment arrivé sur DC chez Panini, voilà.
Ouais.
Donc, on est sur la fin des années 2000, début des années 2010, et voilà, là, j'ai vraiment commencé à en acheter régulièrement. Parce qu'après, c'était... Bon, j'en lisais beaucoup, j'en achetais aussi pas mal, notamment dans les années 90, et puis dans les années 2000, un peu moins, parce qu'il y avait les mangas. Alors, tu vois, on pouvait pas tout acheter, ouais, non plus. Et puis, il y avait aussi les jeux vidéo, hein, avec, c'était quand même la période dorée avec la PlayStation 2, donc bon.
Et les vrais livres, messieurs, les livres sans images, avec juste des
mots. Ça existe. Il y a vraiment des livres sans images.
Moi, une fois que...
À quoi ça sert?
Moi, j'ai juste mon Chateaubriand sur ma table de nuit, c'est bon, hein. Mémoire d'Outre-Tombe, mais voilà.
Moi, je l'ai dans mon assiette, mon Chateaubriand.
Bien sûr, voilà.
Ton Chateaubriand qui n'a pas bougé d'ailleurs de ta table de nuit depuis 20 ans, quoi. Tu y as toujours pas touché.
Non.
Vous savez quoi, mine de rien, le fait que je continuais quand même à acheter des magazines à côté de temps en temps, ou tout simplement que j'étais quand même lecteur de SF et de fantasy, ça a impacté pas mal, personnellement, mon budget comics aussi.
Ah, mais de toute façon... Enfin, ce que dit Jonath, c'était quand même important, c'est que il y a plein de périodes où, certes, je lisais des comics, mais justement, ça me donnait envie aussi de lire un petit peu d'autres sortes de littérature, que ce soit du manga, que ce soit des romans, ou que ce soit du franco-belge. Il y a forcément des moments où t'as envie d'aller voir ailleurs, quoi. C'est pas possible pendant des années de lire que du comics. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça impensable.
Et surtout que du mainstream.
Mais oui, à plus forte raison. À plus forte raison, puisque l'explosion finalement de l'indé, on va dire l'indé grand public, c'est début 2010, avec la multiplication des titres chez Image.
Oui, 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 oui.
On en a vraiment eu beaucoup pendant toute cette dernière décennie. Alors, il y en avait déjà avant, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je veux dire, c'était moins grand public, quoi. C'était plus pour les initiés.
Oui.
À part les grandes séries qu'on connaît tous, du type... Preacher ou de Sandman, etc. Enfin, ça, c'est des trucs, je veux dire, tout le monde connaît un petit peu, quoi.
Et en plus, c'était du Vertigo, donc du DC, quoi.
C'est ça. Mais bon, ça reste quand même de l'indé.
Ouais, bien sûr.
Alors moi, de toute façon, j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question tout à l'heure, puisque c'est vraiment 95... c'est à peu près tous les 10 ans, quoi. 95, c'est vraiment au moment où je me suis mis à lire, alors surtout Spider-Man, hein, puisque argent de poche oblige, je pouvais pas acheter 36 trucs. Donc je me suis vraiment concentré sur Spider-Man pendant des années. Et puis, début des années 2000, 2005, quand Panini a racheté les droits d'essai, je me suis mis à lire du Batman à nouveau. Et puis, de fil en aiguille, Marty, tu parlais des Marvel Icons avec Spider-Man qui arrive dans les Avengers. c'est vraiment le moment où, aussi bien en VO qu'en VF, je pense que Bendis nous a bien eu. C'est-à-dire qu'en mettant Spider-Man dans les Avengers et puis en mettant Wolverine également dans les Avengers, moi je suis allé lire du Avengers parce qu'il y avait Spider-Man, et du coup en lisant du Avengers, je me suis dit tiens, je lirais bien du Captain America, je lirais bien du Iron Man. Comme il y avait Wolverine, j'ai commencé à lire du Wolverine et je me suis dit tiens, j'irais quand même bien lire du X-Men. Et insidieusement, je me suis mis à lire de plus en plus de titres. Alors notamment grâce au kiosque. Hein. Ça, c'est vrai que le kiosque, alors c'est quand même terrible de se dire que le kiosque n'existe quasiment plus à l'heure actuelle. C'était une porte d'entrée considérablement intéressante quand on voulait lire un maximum de choses pour pas grand chose finalement, puisque finalement un kiosque à l'époque, pendant très longtemps, c'était 3,90€.
Exactement.
Le kiosque,
oui,
basique avec 4 séries régulières, c'était juste 4€, quoi, même pas 4€.
En fait, c'était Spider-Man et X-Men qui étaient un peu les têtes de gondole qui... il me semble d'ailleurs que pour Spider-Man, ils ont, et X-Men sans doute aussi, ils ont révélé que c'était limite à perte. Mais ils étaient moins chers que les autres titres, comme les titres Heroes, Avengers et compagnie, qui là étaient plutôt à 4,40 parce que c'était les titres qui amenaient les lecteurs, quoi. Et puis voilà, ouais, entre 3,90 et 4,40, c'était ça les deux prix. Vous aviez des magazines avec 3 ou 4 ouais, séries à suivre,
ouais,
chaque mois.
Pendant des années, parce que c'est vrai que les prix ont augmenté considérablement ces dernières années, mais ça s'est fait très très vite. Finalement, l'augmentation des prix Panini, on les a eu à partir de 2016-2017, par là.
Oui, ouais.
Alors que pendant une bonne décennie, voire plus, on avait des prix qui étaient relativement stables. Pendant des années, le X-Men, le Spider-Man, le mensuel régulier, c'était 3,90, quoi, pas plus.
Voilà, ouais. Après, ça a peut-être un peu augmenté avec le temps, mais c'est vrai que c'est vraiment les dernières années.
4€ à un moment donné, ouais.
Voilà, ouais.
Honnêtement, c'était assez simple, quoi, quand même, de suivre... au moins les séries principales régulières pendant des années grâce au kiosque, quoi.
Ouais.
Et enfin voilà, quoi, c'est vraiment ce qui m'a fait lire énormément de comics de manière régulière, c'est le kiosque, que ce soit Marvel ou DC. Alors après, avec l'arrivée d'Urban en 2011, bah pareil, les kiosques Urban avec... où vraiment pour 5-6€, on avait... là, c'était 5-6 titres dans chaque mensuel, quoi. Encore une fois, le prix était parfait, quoi. C'était vraiment une offre intéressante. Et on avait 3 ou 4 mensuels réguliers, Batman Saga, Justice League Saga et Superman Saga, je crois. Enfin, en tout cas, c'était un truc comme ça. Non, c'était Green Lantern Saga, puisque Superman était dans le Justice League pendant un moment.
Il y a eu Superman Saga au début, ensuite il est passé dans le Justice League.
Il y a eu 3-4 titres comme ça réguliers et vraiment, vraiment, si on les achetait les 4, on en avait quoi pour 20€ par mois en termes de DC et puis... pareil pour Marvel, quoi, donc à tout casser. Enfin, on va dire pour une 50aine d'euros, on pouvait lire énormément de choses dans le mois pendant des années, quoi, c'était comme ça.
Il y avait même sur les fascicules d'Urban Comics, il y avait même pour le même prix, ils avaient monté jusqu'à 6 singles dans le même mensuel.
Oui, il l'a dit Benny avant, ouais. Alors que chez Panini, ils sont montés à un moment donné à 5, il me semble.
Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez?
Bonjour, c'est votre voisine Jeannette.
C'est pas possible. En fait, chez Panini, on pouvait avoir du 6, voire même très exceptionnellement du 7 numéro dans tout ce qui était les extras, les hors-séries. Par contre, dans les mensuels, alors je crois que vers le début, milieu des années 2010, mais là j'avais déjà lâché les mensuels, ils sont montés à 5 numéros, mais ouais, depuis ils sont retombés à 4.
Voilà, c'est vraiment à partir de 2015-2016, l'après Secret Wars, voilà,
ouais,
tout simplement.
Bah à partir du Marvel Now, on a la relaunchite aiguë qui commence, et ça commence tout doucement. À partir de Secret Wars, c'est aussi compliqué de s'y retrouver, notamment du côté des X-Men. Il y a eu je sais pas combien de titres différents.
C'est franchement durant les 5 dernières années que le kiosque s'est tué à petit feu en augmentant les prix et en augmentant pas forcément la pagination. Là maintenant on en est arrivé aux softcover qui sont plus vraiment du kiosque et qui sont plus vraiment abordables, puisqu'un softcover, franchement le prix d'un softcover c'est le prix d'un manga basique, hein, même le Naruto ou le One Piece est moins cher qu'un softcover Panini maintenant. Lire des comics à l'heure actuelle, c'est vrai que ça devient un divertissement de luxe, ce n'est plus abordable pour le jeune public ou pour le gamin qui aura de l'argent de poche, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment une page qui se tourne. Je sais pas comment les nouveaux lecteurs, la jeunesse, vont pouvoir se tourner vers le comics facilement, dans les temps à venir.
D'un autre côté, une bonne chose chez Panini qu'il faut même signaler, c'est que depuis 10 ans, on a vraiment une accélération de ressorties de choses en librairie. On a vraiment beaucoup de collections qui reprennent la plupart des séries régulières qu'on a dans les kiosques ou maintenant dans les softcovers. C'est peut-être ça maintenant le point d'entrée pour les jeunes lecteurs.
Bah moi j'ai envie de te dire la librairie, franchement, surtout la librairie Panini, c'est plutôt un. C'est plutôt vers les vieux cons élitistes dont on fait partie, hein, je dis ça de manière ironique, mais qu'elle se tourne, parce que je vois pas un gamin qui va mettre 30 euros.
Oh, on est élitiste, mais on n'est pas vieux cons quand même.
Oui, enfin voilà. Mais je vois pas un gamin qui va mettre 30-35 euros dans des intégrales, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Ah oui, non, ça non. Non, non, mais moi je parlais plus, tu vois, des collections. Alors maintenant, c'est plus des collections Marvel Now, c'est. Enfin, l'équivalent des TPB, alors qu'ils sont tous par contre en dur.
Mais ça coûte facilement une vingtaine d'euros, donc tu vois, tes parents à l'heure actuelle.
Ouais, 16-17, non, je sais plus.
Ouais, mais enfin, la barrière psychologique de 15 euros est déjà dépassée, puis.
Oui, t'as raison, ouais.
Tu vois, quand je te dis un One Piece, c'est 6,90€, je crois. On va dire 7 euros. Enfin, voilà, ton gamin te demande de la lecture. Autant lui prendre deux One Piece, deux volumes. Que lui prendre un Deluxe à 17 ou 18 euros, déjà ce sera plus cher et en plus il aura finalement moins de lecture, quoi.
Oui, c'est pas faux, oui.
Franchement, autant lui prendre un One Piece tout court hein, que les comics, hein. Je dis ça comme ça, hein.
On a compris que tu roulais pour les mangas, monsieur Jonath. Pardon, madame Jonath, tu es démasqué.
Mais vas-y, je vous prie, pas de respect.
Ah, t'es un agent des éditeurs de mangas, en fait, qui est là pour saborder notre émission.
Je suis un agent des Chiréoda.
Non, mais de toute façon, c'est vrai que le manga a su rester abordable.
Ah, il y a quand même eu des hausses, hein. Faut aussi.
Il y a quand même eu des hausses, mais je veux dire, sur les séries, tu sais, hors format, tu sais, les trucs un peu plus prestigieux à 10 euros, etc. Pas mal de séries aussi qui sont plus aux alentours de 10 euros, je suis d'accord. Mais je veux dire, les séries grand public, les One Piece, les Naruto, etc., c'est toujours resté abordable, c'est ça que je veux dire. En tout cas, pour l'instant.
T'as quand même une petite augmentation, quoi.
Bien sûr.
Un petit euro, quoi, quand même, hein, je pense, déjà. Hein.
Ouais, ouais.
J'ai plus le tarif actuel, mais.
Mais par rapport aux comics, et surtout par rapport aux comics au kiosque, c'est incomparable. Enfin, je veux dire, là.
Regarde, maintenant, on est quand même sur du 6,90, quoi.
Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit il y a 30 secondes.
Oui, c'est Mademoiselle Jeannette, c'est pas Monsieur Jeannette.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, donc 6,90, je t'assure que, en tout cas, alors One Piece, l'éditeur, c'est Glénat. Il y a quand même une époque où c'était plus aux alentours de 5,50, quoi, tu vois.
Bien sûr, mais quand tu sais que le kiosque, avant, c'était au plus, par exemple, chez Urban, autour de ce prix-là, bon, bah, enfin, voilà, enfin, t'avais de la lecture, quoi. Pour ce prix, ça allait, t'avais de la lecture. Mais par contre, maintenant...
Ah oui.
On a dépassé allègrement les 7 euros, c'est-à-dire que sur un kiosque, enfin il n'y a même plus de kiosque, mais sur les softcovers, on est plus environ à 10 euros, quoi, quasiment. Quasiment, on est à 9 je sais plus combien, quoi, à force. On est au prix des premiers 100% Marvel, donc qui étaient les premières parutions librairie, quoi, à l'époque. Donc voilà, on crève le budget, quoi. Moi, je trouve que les comics, c'est vraiment devenu un truc d'élitiste, quoi. C'est comme aller se faire un resto japonais, voilà, tu vas pas manger des sushis tous les soirs parce que la paire de sushis à 4 euros, bah. Ben voilà quoi, vaut mieux te faire un McDo quoi à ce prix-là.
Bah disons que quitte à aller manger des sushis, effectivement, autant aller dans un. Autant les casquer, c'est malheureux à dire, mais autant aller en manger dans un bon quoi.
Oui, c'est ça.
Et effectivement.
C'est ça. Mais les comics, tu vois, ça devient un peu pareil quoi. C'est.
Ah oui.
Tu veux lire une bonne histoire, bah ok, mais va falloir mettre le prix, quoi.
Mais du reste, regarde, enfin, déjà, t'es même limité par les parutions tout court, hein, parce que Daredevil, aujourd'hui, moi, le rythme de parution, il est, enfin, je veux dire, le mec qui veut acheter en kiosque, bah, il est baisé, hein, pour ainsi dire, quoi.
Bah, de toute façon, Daredevil en kiosque, ça n'existe même plus, quoi.
Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi, tu vois, c'est que déjà, t'es... Tu veux lire Daredevil, tu peux pas, quoi. Enfin, si tu
non,
peux, mais...
Non, tu es obligé de te tourner vers la librairie, et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment devenu un truc élitiste, quoi.
Ouais.
Celui qui veut lire ce perso, il va devoir se tourner vers des bouquins qui coûtent facile 15, 16, enfin, entre 15 et 20 euros, voire plus, quoi, finalement.
Ouais.
Donc, faut avoir le budget, quoi. C'est vraiment particulier, quoi.
C'est pour ça que je fais des passes, hein.
Marty, peut-être...
Oui,
une...
je suis là, je vous écoute religieusement.
Ouais, non, mais peut-être une réaction par rapport à cette hausse de prix fulgurante des dernières années, du coup, qu'on a. C'est vrai que on a vécu à une autre époque où c'était beaucoup plus simple d'accéder aux comics.
Oui, bah alors après, il y a peut-être des données qui nous échappent, hein, toute la crise du papier, la crise de la presse, ce genre de choses. Je pense que ça doit quand même pas mal jouer aussi dans l'augmentation des prix. Je pense qu'on a vraiment connu l'âge d'or, hein, la fin de l'âge d'or. Je pense notamment les années 2010, 2011, 2012, par là, un peu avant le Marvel Now, où chez Panini, on avait encore des prix abordables pour les kiosques. C'est vraiment une période où Panini a quasiment sorti tout ce que Marvel produisait. Mais vraiment, hein, c'est impressionnant de voir. Il n'y a aucun moment avant et après où ils ont sorti autant de titres. Peut-être même un peu trop, qui sait. Mais en tout cas, oui, on peut oublier nos bonnes vieilles méthodes. Comment dire ? Pour moi, je sais que le goût du kiosque que j'avais, ça fait longtemps que je l'ai perdu et que je ne le retrouverai plus. J'ai été un peu dégoûté, pas que par les politiques de Panini. Hein, je parle vraiment pour Marvel parce que je suis avant tout lecteur de Marvel. C'est aussi Marvel tout court qui m'avait un peu laissé de côté avec certains relaunchs qui me plaisaient pas trop, notamment du côté des X-Men. J'étais un peu saoulé de ce qu'ils en faisaient depuis quelques années. Et là, par contre, je suis vraiment attristé pour les jeunes lecteurs parce que, comme tu le disais, Benny, c'est super cher les softcovers. Déjà, il faut avoir une librairie près de chez soi qui en vende.
Ou alors un kiosque qui fait de la librairie.
Bah justement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Panini a pas arrêté de dire « Non, mais vous trouverez ça dans les kiosques qui font de la librairie, il y en a partout. » Non, c'est faux. Il y en a pas partout.
Oui, parce que c'est la décision du gérant, tout simplement.
Exactement, oui. Je crois qu'on l'avait déjà dit dans notre podcast il y a un ou deux ans, mais je crois que j'avais déjà dit ça, mais si aujourd'hui j'avais de nouveau 14 ans et que je voulais me mettre aux comics, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas techniquement m'y mettre, je n'aurais pas la possibilité parce que il n'y aurait aucun point de vente près de chez moi qui pourrait m'en proposer. Et quand bien même, comme tu le dis, le prix est aberrant. C'est combien le softcover, 7, 8 ?
Ah maintenant c'est dans les 8 voire les 9 euros, je crois les derniers c'est carrément, on a dépassé la barre des 9.
Voilà, bah tu sais quoi, à ce moment-là, je vais plutôt attendre, plutôt que de prendre un magazine où... Alors c'est cool, il y a plein de séries, il y a des séries que peut-être que... Il y a peut-être des pépites que je n'aurais pas lues sans ça, il y a aussi des bouses que je me serais tapé avant, on s'en fout, bon allez, c'est dedans, c'est pas grave, le prix est pas cher. Là, plutôt que de prendre un magazine à 7 euros où j'aimerais peut-être pas tout, je vais attendre quelques mois que l'arc complet sorte en relié à 16-17 euros, et puis voilà, c'est comme ça que je ferai, quoi. On perd vraiment ce côté, on va découvrir plein de séries différentes, parce que maintenant c'est softcover, je trouve ça trop cher.
Exactement, ouais. Alors il y a Urban qui a pris le problème à contre-pied en proposant un énorme pavé en kiosque. Là par contre on le trouve toujours en kiosque. C'est le Batman trimestriel. Il y a entre 10 et 12 comics à l'intérieur.
Ah c'est trimestriel maintenant ?
Ah je crois depuis que c'est lancé, ouais il me semble. Ou bien alors c'est tous les deux mois. Ah c'est peut-être tous
non,
les
non,
deux mois.
Non trimestriel, tu as raison. Moi j'étais resté sur le bimestriel en fait. Mais oui tu as raison, oui Batman trimestriel, oui.
Qui est à 15 euros, alors vous allez me dire oh là là, c'est énorme, mais il y a au moins 12 numéros à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment un pavé de lecture. Le ratio prix-page reste bon, mais qui va mettre, c'est toujours pareil, quand on va en kiosque, on s'attend pas à dépenser 15 euros.
Non, clairement pas. Surtout qu'on sait qu'ensuite Urban va sortir tout ça en édition reliée. Donc autant avoir l'édition reliée que tu mets dans ta bibliothèque.
Ouais. D'autant que là, ça reste du kiosque, donc c'est un petit peu un fourre-tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les séries régulières, et il n'y a pas que du Batman. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'en ai acheté un, je pensais voir que du Batman, ça s'appelle Batman, et j'avais une mini-série dont je n'avais rien à faire, qui était une mini-série Justice League, ou Green Lantern, je sais plus.
Ah ouais, dans le trimestriel ?
Ouais, la moitié du bouquin, en fait, ne concernait pas du tout Batman.
Tu confonds pas le Batman Rebirth qui était bimestriel, où là on avait...
Ah non, je vraiment, c'est fou, quoi. De toute façon, c'est le dernier kiosque Urban encore en activité, quoi.
D'accord, très bien, dis donc.
Sinon, le kiosque Panini qui est toujours là et qui coûte pas très cher, c'est le Star Wars.
Ouais.
Star Wars est resté dans les kiosques.
C'est le dernier kiosque de Panini. Ils ont arrêté Marvel Heroes ou pas, là, l'énorme pavé, ou pareil, il y avait 8 ou 12 numéros dedans.
Je pense. J'ai vu que les deux premiers, il y a eu deux numéros, mais alors est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Je ne sais pas.
D'accord, ou d'ailleurs il y avait des bonnes séries, il y avait la Death of Inhuman par exemple, ce genre de choses, mais...
Mais c'est pareil, tu vois, c'était une quinzaine d'euros je crois.
Oui.
Et même s'il y avait des choses intéressantes et que le rapport quantité-prix était bon, personne ne va en kiosque pour acheter à ce prix-là, quoi.
Bien sûr, ouais.
Quand tu vas en kiosque, tu t'attends à faire des dépenses justement, inférieures à 6 euros, quoi, ou à 6 euros maximum.
Et puis je vais me répéter, mais si c'est pour retrouver de toute façon les séries ensuite compilées en TPB en librairie, autant attendre la sortie à librairie.
Mmh. Enfin voilà, donc le monde a changé par rapport à ce qu'on a connu malheureusement, et en ce qui concerne le kiosque, c'est pas en bien quoi. Enfin,
et le bond aussi a changé.
Le bond a changé, ouais.
Et oui.
Peut-être un jour, on la fera enfin cette émission sur James Bond.
Ah, c'est Jonathan qui désespérément voudrait qu'on en fasse une sur James Bond.
Mais bien sûr, bien sûr.
Il nous dit ça en caressant son chat sur sa chaise avec laquelle il fait des tours.
Caressant sa chatte.
Oh.
Ça dépend de quelle version tu parles.
Non, 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 je ne veux pas Mademoiselle Jonathan, non.
Là, c'était Jonathan, hein, donc...
Ouais, vu la voix, oui. Si je veux l'autre, c'est pour dire ça. Oui, bouge mon vie, Vanessa. Bon, enfin bref. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a parlé de plein de choses à travers ces discussions. Question bonus, peut-être.
Allez.
Est-ce que vous regardiez des séries, pas forcément adaptées de comics directement, mais en tout cas liées aux comics? Je m'explique. Par exemple, moi, je sais que j'étais fan de l'animé des Tortues Ninja, quoi, qui reste quand même avant tout un comics, en réalité, de base. Donc, est-ce que vous aviez des divertissements, finalement, enfin, des dessins animés, des trucs comme ça, qui restent proches des comics dont vous étiez fan, quoi?
Bah ouais, comme toi, les Tortues Ninja. Et clairement, ça a joué aussi dans mon goût, dans mon appétence pour les super-héros. Alors, c'est pas du comics tout à fait, mais il y a eu des déclinaisons en comics. Il y avait un esprit comic book, le dessin animé Ghostbusters dont tu parlais au début. Et bah, ouais. Pareil, hein, j'avais beaucoup aimé, un peu dans la même veine que les Tortues Ninja, ça aussi. Il y a dû en avoir des adaptations de comics où à l'époque je ne savais pas que c'était du comic book, mais là tout de suite je vois pas là.
Alors il y avait par exemple aussi, je pensais à Conan l'aventurier.
Oui, c'est vrai qu'il puise à la fois dans les bouquins et dans les comic books, oui. Alors j'ai adoré ce dessin animé, ouais.
Finalement, mine de rien, il y avait pas mal de choses. Il y avait He-Man, bien sûr. Alors, les Maîtres de l'Univers, à la base, ce n'est pas un comics, mais ça l'est devenu.
En fait, à moitié, comme il y avait des mini-comics dès le début qui accompagnaient les jouets.
C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que finalement, peut-être que mes premiers comics, à bien y réfléchir, c'était peut-être ça, quoi. Puisqu'il y avait une espèce de mini-comic book avec les figurines. Moi, c'est un dessin animé que je n'ai jamais vu.
Ah ouais?
Ouais, ou bien alors je regardais pas, mais en tout cas, je pense que j'ai eu des figurines après la période où vraiment le dessin animé était diffusé, quoi.
D'accord, parce qu'il y a eu des rediffs, genre au milieu des années 90 sur des chaînes, genre pas TV5, le truc qui était l'après-midi sur Arte, là, la 5e, ou RTL9, ou ce genre de chaîne.
Je suis jamais tombé dessus dans ce cas-là.
Oh, t'as pas perdu grand-chose, hein.
Mais du coup, tu vois, sans connaître l'animé, j'avais quelques figurines, parce que les figurines étaient cool. Et effectivement, avec les figurines, t'avais un mini-comic qui était en plus dessiné, je crois, par des artistes qui étaient pas manchots. Hein. C'était, y avait quelques noms qui sont passés dessus.
Y a pas du Joe Jusco ou quelque chose comme ça?
Ouais, j'ai pas les crédits là, malheureusement, parce que j'ai pas du tout préparé ce truc. Mais je me souviens notamment d'un épisode, enfin d'un comic, quoi, d'un mini-comic, avec deux espèces de créatures qui mettaient des masques et qui devenaient super puissantes, qui grandissaient, quoi. Des espèces de masques magiques. Enfin voilà, et évidemment à la fin, Musclor les décapite. Oui, parce que He-Man en français c'était Musclor, bien sûr. Hein. Les décapite et ils retrouvent leur taille normale. Enfin voilà, mais c'était. Il y avait certains épisodes, certains mini-comics comme ça tirés de cet univers qui m'avaient marqué, quoi. Et c'est peut-être d'ailleurs mes premiers comic books, à bien y réfléchir.
Ces dernières années, il n'y a pas très longtemps, les mini-comics ont été compilés en VO dans des hardcovers ou bien des TPB.
Oui, je l'ai d'ailleurs, je l'ai récupéré. C'est pour ça qu'il faudrait que je regarde les crédits, mais je vais pas le faire maintenant parce que ça fera tout un tintamarre. Mais,
Je vois George Tuska, Paul Kupperberg, alors lui c'est le scénariste. Mais George Tuska, que j'ai confondu avec Joe Jusco, donc Tuska qui a fait du Iron Man pendant très longtemps.
C'est des noms connus, hein. De toute façon, même Kupperberg a fait d'autres choses. C'est un nom que je connais, quoi.
Oh, ouais, je me demande si Alfredo Alcala, qui était dessinateur ou encreur sur Conan, à de nombreuses reprises, n'a pas été dessus aussi.
Ouais. En tout cas, voilà. Donc, il y avait... Alors, Jonathan, peut-être un truc auquel tu penses lié aux comics, non?
Ah, bon, j'ai regardé les Tortues Ninja. Alors, j'ai eu ma période Tortues Ninja comme tout le monde. Mais de là, si tu veux, à me dire, bon... ça m'a mis dans les comics j'ai gardé un fandom pour ça, non pas vraiment quoi, tu vois.
Le dessin animé, la construction du dessin animé était quand même assez proche des comics. Les épisodes ne se suivaient pas forcément, Mais il y avait un fil rouge dans les intrigues liées aux personnages. C'est-à-dire qu'il y avait des personnages qu'on voyait réapparaître dans certains épisodes.
Ouais, genre Baxter Stockman, où il y a quelques vilains comme ça secondaires, où il y a vaguement une intrigue au long cours. Ouais.
Laserhead...
C'est quand même une série qui vieillit extrêmement mal, quoi. Franchement.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr.
Là, et je, là, et je parle même pas, tu vois, en termes d'animation et tout ça, je parle vraiment en termes de storyline, hein, parce que il y a eu un paquet de, justement, d'autres séries Tortue Ninja qui sont arrivées derrière et qui étaient quand même...
Qui sont bien meilleures, puisqu'ils sont bien plus adultes, ouais. Là, c'était vraiment pour un très jeune public...
Bebop et Rocksteady, bon, c'était chaud, quoi, des fois.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je sais pas si vous aviez des figurines, moi j'en avais tiré de cet univers, c'était justement essentiellement cette collection-là que je faisais quand j'étais gamin. Les figurines, le packaging et même les figurines elles-mêmes avaient beaucoup plus un look de figurines tirées des comics.
Ah oui.
Que du dessin animé, finalement.
Ah, c'était un peu cradingue, oui.
Elles étaient beaucoup plus trash et beaucoup plus adultes, du point de vue du design, les figurines, que ce qu'on avait dans le dessin animé. Je me rappelle par exemple que sur Rat King, sur la figurine, il y avait genre une espèce de rat mort, de rat crevé sur sa chaussure, quoi. Il y avait certains personnages, je me rappelle, il y avait un personnage qui s'appelait Muckman, qui venait des ordures. Je crois qu'il apparaît dans le dessin animé, mais très tardivement, donc j'ai pas vu l'épisode en question. Mais en tout cas, là, sur la figurine, tu voyais plein de débris, de trucs amalgamés sur ses bras, sur ses jambes. Enfin, c'était vraiment hyper crade, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait un souci du détail sur ces figurines, qui était beaucoup plus trash, on va dire, que les personnages que tu voyais dans l'animé, quoi.
Ouais.
Et qui était totalement le design qu'avaient, en fait, les personnages dans les comics, de Kevin Eastman et de Peter Laird.
Oui,
voilà, c'est ça.
Et puis avec des persos qu'on a peut-être pas forcément vus dans le dessin animé, comme Pizza Face, le fameux, je sais que tu l'aimes beaucoup, celui-là.
Mais je crois qu'il existe nulle part, en fait.
Ouais, je crois que c'est juste pour les jouets, ouais.
J'ai l'impression que c'est juste une création pour les figurines. Ça n'a jamais abouti dans le dessin animé. Et même dans les comics. Pourtant, quand on lit les origines du mec, ça donne envie. C'est un cuisinier venu de la dimension X, donc du côté de Che Krang, dont la spécialité est bien sûr de cuisiner les tortues, quoi.
Bah oui, évidemment, sinon c'est pas drôle.
Pizza Face, qui était une espèce de cuisinier dégueulasse. Je crois qu'il avait une jambe en bois, et au lieu d'avoir un pied, du coup, c'était une boîte à pizza, tu sais, qui lui servait de deuxième pied, quoi.
Non, ouais, ça ressemble à rien du tout comme créature, ouais.
Ouais, mais enfin voilà quoi, c'était beaucoup plus trash les jouets et le design qu'ils avaient que les persos de l'animé, quoi.
Là aussi, les jouets dérivés des dessins animés de super-héros, alors, ne serait-ce que le nombre de persos jamais apparus, voire les armures à la noix créées juste pour le marketing, il y aurait de quoi en faire toute une émission là-dessus. Hein.
Bah un jour, si tu veux, on pourra faire une émission sur les produits dérivés.
Oui, pourquoi pas, ouais.
Bien que c'est un truc qui est plus adapté au visuel qu'à l'audio, oui. Ça peut être envisageable. Ça peut pas être inintéressant. Si on se renseigne sur l'histoire de la création des jouets, etc., il y a moult choses à dire.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Bon, bah, je pense qu'on va conclure, hein, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. Là, franchement, j'ai plus de questions, j'ai plus d'idées.
Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite émission de show, finalement, qui va quand même atteindre les 2 heures. Hein.
Ouais.
Comme prévu, on a été très bavards, mais bon.
On était 3, au début on pensait peut-être être que 2.
Oui.
Mademoiselle Jonath nous a rejoint. Voilà. Donc du coup, ceci explique cela, et bah, j'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Et justement, le but c'est peut-être, plus tard, bah, d'avoir d'autres personnes qui nous parleront de leurs premiers émois comics. Ça pourrait être intéressant, et ça pourrait donner lieu à d'autres discussions, parce que là, mine de rien, on a eu pas mal de discussions autour de plein de choses, hein, finalement. Que ce soit les origines de Venom ou la distribution des comics en France par le kiosque, enfin voilà. C'est aussi le but de cette émission, c'est de dégager plein de petits sujets de discussion comme ça au fur et à mesure de nos pérégrinations et de nos souvenirs.
Il y a déjà même une personne ou deux à qui j'en ai parlé qui serait intéressée, donc ça devrait pouvoir se faire.
Parfait, bah écoutez. Il reste plus qu'à nous retrouver sur le site.
Oui, sur comicsoffice.com. Comme toujours, vous pouvez nous écrire à contact@comicsoffice.com ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, où on est toujours très actifs. N'hésitez pas à consulter l'article qui accompagnera ce podcast si vous le téléchargez directement sur une appli, parce que je vais au moins mettre le lien vers l'histoire du costume noir, si jamais tout ça vous intéresse, avec notamment... cette histoire de concours, le jeune homme qui s'est manifesté il y a quelques années. Il a été interviewé par je ne sais plus quel site. Je vais vous retrouver tout ça et vous mettre tous les liens dans l'article.
Il y avait un site qui s'appelait Mad Goblin War, je crois. Enfin, tapez Mad Goblin. C'était un gars qui faisait plein d'essais sur Spider-Man et qui a fait notamment tout un essai sur le costume noir. Et je crois que tous ses écrits sont encore disponibles en ligne.
Ah, bah, je vais aller voir ça.
Si vous tapez ça sur Google... Alors, c'est en anglais, hein, évidemment, hein. Mais voilà, c'était une mine d'informations et il y avait pas mal de choses intéressantes. Par contre, je pense que ce n'est plus actif, qu'il n'écrit plus depuis quelques années. Ça datait des années 2000, début des années 2000. Ça reste toujours passionnant, ce genre de choses.
Très bien, on ira voir.
Eh bien, bonne continuation à tous. Je sais pas comment terminer. Bonne soirée, bonne journée. À très vite pour de nouvelles aventures, pour d'autres émissions également.
Salut à tous.
Qui continuent hein, sur Comics Office, au rythme totalement irrégulier qui nous qualifie... Oh là là, oh là là. Allez, ciao, ciao, voilà.
Allez, salut tout le monde et lisez plein de bons comics.
Jonath. Même pas de Jonath, même pas de... Allez, salut à tous.
Bah,
mais il l'a dit.
Ah bon? Ah bon, putain, mais on l'a pas entendu. Enfin, moi je l'ai pas entendu en tout cas.
Mais oui. Je vais être occupé à t'écouter, comme d'habitude.
Ouais, comme d'habitude. Top à la vachette.
Top à la vachette. Et on n'oublie pas qu'on est sponsorisé par les fromages Vache qui rit. Non mais c'est bien comme ça, je teste
ça
que ça
commence
marche,
déjà hein. Mal.
Oh là, la bouteille d'Orangina là, il faut qu'elle monte sur la plateforme.
Taisez-vous Jean-Pierre.
Oh là là, cette chute du Mont-de-Marsan.
Comment il s'appelait l'arbitre alsacien là? Robert Wurtz, non?
Robert Burns, ah oui, supporter d'Arcachon, bonsoir!
Mais Olivier, qu'est-ce que vous faites avec vos doigts? Ah non, je fais juste un 3 comme ça, voilà, c'est pour retenir le nombre de points.
Ah oui!
Robert Burns. Mais en plus, je pense qu'il était vraiment sincère, hein. Il comptait le nombre de points, c'est normal, c'est l'arbitre. De toute façon, c'est tout à fait possible que son compte corresponde, comme par hasard, à la réponse, puisque devait y avoir 3 propositions, donc...
Non, je parle d'Olivier Chabaudeau, hein, je parle pas de Robert Wurtz, là.
Ouais.
Enfin, tu reverras la séquence, des fois le hasard fait vraiment bien les choses, hein.
Bah ouais, mais le hasard, quand y a trois réponses et que comme par hasard...
Oui.
Oh, monsieur, on est béni toujours à contre-courant des avis des gens.
Non, moi je pense que c'était une grosse connerie. On a vraiment fait, on a monté en épingle un truc totalement évident quoi.
Un complot.
Bah oui, il y avait rien quoi. Mais à l'époque c'est bien parce que l'actu c'était attention le grand complot d'Interville quoi. C'était quand même un peu moins grave qu'actuellement.
Oui, c'était autre chose, oui c'est sûr.
Voilà. C'était vraiment le top du top.
Et le président
quoi.
Il disait rien en plus pour Interville à l'époque. Il foutait rien le président.
Non, il buvait des bières à l'époque.
Ouais.
Il buvait des bières et allait au salon de l'agriculture.
Il n'y avait pas de confinement parce qu'il y avait eu de la merde à Interville, quoi.
Ça va ?
C'était « Do you want me to go back to France ?» Ça va ? Bonjour !
« Do you want me to take the plane ?»«
Do you want me to go back to my plane ? Do you want me to go back to France ?» This is not a method, this is a provocation. Bonjour. Putain.
Ah, c'est beau, hein, mais c'est loin.
Ah, mon dieu, mon dieu. Bon, allez.
Ah, là, là. On se motive.
Ouais, ouais, ouais. Va falloir déjà que je taille le pitch de l'émission au début, donc...
Bonne chance.
Ouais. Espace disque. Ok, donc c'est bon. Bon, bah, je vais me lancer. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de... Non, pas dans un nouveau numéro, puisqu'ils connaissent pas. Donc, on va...
Allez, bravo. Mais, vraiment, quoi. Oh, le mec. Bah si, c'est un nouveau numéro quand même, un nouveau numéro de
Ouais, 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 Sophie, mais c'est, enfin, je vais pas le présenter comme
ça. Un nouveau numéro sur notre site. Hein.
Non, un nouveau premier numéro.
Non, non, mais vous inquiétez pas. Bon, allez, on recommence. Bonjour les petits loups. Non, je déconne.
Cette année, il y a eu un petit nouveau parmi les animateurs. Olivier Allemand, le nouvel arbitre. Il a remplacé Robert Wurtz, le mythique arbitre d'Interville. Vous vous souvenez ? Robert et ses tops à la vachette. Robert, c'était un arbitre, comment dire, théâtral. Il n'est pas passé au milieu. Oui,
oui, il est là. Match. Comme on me demandait un peu d'en rajouter que moi, sur le football, on m'avait toujours dit que j'étais un arbitre théâtral, et bien là, j'ai pu laisser libre cours à ma nature.
Bien sûr, je vois bien.
Ah oui, oui, génial.
Marqué, l'aventurier.
Oui, oui,
voilà,
c'est
ce qui a marqué.
De toute façon, ça change rien.
Constaté.
Voilà ce qui a marqué.
Corti, que... confirmation.
Oui.
Le titre de cette chanson, c'est L'Aventurier. Sur le tableau de Bandol, on le devine. Oh donc, bon. Un point pour Bandol. Oh mais, va, oh mais laissez-moi parler. Vainqueur de jeu, c'est Saint-Maxime de terminé. Oh mais laissez-moi parler.
Vous n'êtes qu'un manipulateur. Je capote, vous êtes viré. Apparemment, vous n'avez pas la moindre idée du pouvoir de Victor Nuland.
Vous n'avez pas le choix, Jack. Je vous ordonne de quitter ce bâtiment. Je vous en prie, ne bougez pas. Prenez ma place.
Qu'est-ce que t'es, Vénice? Tu sembles être très distante ce soir.
Eh bien...
Vas-y, dis-moi tout.
Je ne me sens pas très heureuse.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi vite et je te le ferai immédiatement apporter.
Oh, je veux juste un mari qui quitte ce milieu pourri dans lequel il travaille depuis des années.
Ça recommence. J'aimerais te le rappeler, mon travail dans ce milieu pourri, comme tu le dis, nous a quand même permis de devenir riche et d'avoir tout ce qu'on veut.
Mais justement, pourquoi continuer? Tu consacres encore tout ton temps au crime.
Ah bah non, c'est faux, tu sais bien que j'ai toujours du temps pour toi. Ouais, eh bah tu m'excuses, c'est très important.
Tu vois ce que je disais?
Quel caractère.
Salut à tous.